La vraie nouvelle naissance. Jésus, dans sa bonté, s'est occupé de tous les hommes, de toutes les classes d'hommes et de toutes les conditions. Ce qui est écrit de lui dans la Bible nous montre qu'une infime partie de ce qu'il a fait, mais nous montre quand même qu'il aimait tout le monde. Il savait que tous les hommes avaient besoin d'être sauvés, et donc il s'occupait d'eux à sa manière. Et si je dis à sa manière, c'est parce que c'est comme cela qu'il a agi depuis les tout commencements. Les Écritures, dans leur ensemble, sont là pour nous apprendre ces choses. Il est évident que, selon la catégorie sociale ou familiale des hommes, ou encore selon leur naissance, leur nom, leur rang, ou que sais-je encore, les hommes, bien que tous égaux devant Dieu, ont une vie extérieure différente les uns des autres. Mais ce n'est pas l'extérieur qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est intérieur. Et c'est ce qu'est venu traiter Jésus précisément. Jésus, en tant que sacrifice unique, aurait pu donner sa vie en rançon puis repartir auprès du Père. Le paiement, le rachat auraient été faits de toute façon. Mais non, Jésus, par tous ses actes merveilleux qui finirent par le clouer sur une croix comme un brigand, voulait montrer par là où était exactement le mal, la racine du mal. Jésus s'est donc occupé de sauver une grande diversité de gens, et surtout ceux les plus en danger. Il disait cela en évoquant la 100e brebis que le berger faisait passer avant les 99 autres, parce que la plus en danger. Parmi ces brebis en grand danger, il y avait donc aussi tous ceux qui enseignaient les gens, mais faussement. La plupart de ces gens, en effet, ignoraient totalement qu'ils étaient dans l'erreur, et c'est pourquoi Jésus s'est occupé d'eux tout particulièrement. Donc, si vous le voulez, nous verrons aujourd'hui un homme dont Jésus s'est occupé tout à fait particulièrement. Il employa une méthode vraiment bien adaptée à l'adresse d'un docteur de la loi. Cet homme se nommait Nicodème. Nicodème, c'est de manière généralisée la nouvelle naissance. Salé comme Noé, c'est l'arche, Jonas, c'est le gros poisson, Moïse, c'est la loi des 10 commandements, Samson, c'est forcément des lilas, etc. Tous ces thèmes ont été tellement galvaudés que même le sel pourrait en venir à perdre sa saveur, comme le déclarait Jésus, en qui normalement nous croyons. Donc si les actes de Jésus en qui vous croyez vous plaisent et réjouissent votre cœur, je vous propose que l'on examine d'un peu plus près les Écritures au sujet de Nicodème, le docteur de la loi. Dieu a donné. Nous sommes dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Ici, Jésus ne parle pas seulement de lui-même. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc ils le savaient. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu, dans ce cas. Vous rendez-vous compte de ce qui est dit ici? Premièrement, Jésus dit qu'il est déjà venu dans le monde, bien qu'étant né à Bethléem, mais vivant à Nazareth et prêchant principalement aux Juifs. Et secondement, il dit que tous ceux qui ne venaient pas à lui faisaient le mal. Il dit que c'est la raison pour laquelle ils ne venaient pas à lui. Et Jésus rajoute que s'ils font le mal, c'est parce qu'ils savent que leurs œuvres sont mauvaises. Il dit en plus que quiconque fait régulièrement le mal, mais ne vient pas à la lumière, refuse forcément de venir à Jésus, la lumière du monde, de peur que ses mauvaises œuvres ne soient dévoilées au grand jour. Il s'agit donc d'un cercle vicieux, et pour s'en sortir, il faut venir à Jésus le Sauveur, tel qu'on est. Or, c'est justement ce que fit Nicodème, lui seul, d'entre les pharisiens. Que penser de tout ça? Voyons un peu plus dans le détail. Nicodème, un docteur de la loi, vient donc de nuit pour voir Jésus. Et il vient voir qui, selon vous? Il vient voir une lumière qui luit pendant la nuit. Jésus avait effectivement dit dans Jean 12, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. En effet, quelqu'un qui marche entouré de ténèbres ne sait où il va exactement. Il n'est pas plus pourvu qu'un aveugle. Il peut bien gérer les choses qui sont juste devant ses yeux, mais quant à savoir où il va, ça lui est quasiment impossible. Et je suis enclin à penser que quand Jésus parle ainsi, il le fait de manière générale pour tous les hommes. Pendant que vous avez la lumière au milieu de vous, croyez en la lumière qu'il représente lui-même, afin que vous soyez, vous aussi, des enfants de lumière. Ici, le lien est formellement établi par Jésus entre croire et être. Soyez. Je suis fort étonné quand j'entends de telles paroles, car en principe, on n'a pas besoin de croire en une lumière, puisque justement, elle est là pour nous éclairer cette lumière. Mais allez savoir avec de telles paroles. Il leur disait par là qu'il ne suffisait pas de croire en lui seul, mais plutôt de croire en la lumière qu'il représentait, afin de devenir eux aussi, et grâce à elle, des enfants de lumière. Souvent je dis que la foi est un lien spirituel qui existe entre nous et Dieu. Voyez-vous-même si cela est vrai dans son sens général. Personne ne peut invoquer Dieu s'il ne croit pas en lui, sans quoi il ne l'invoquerait même pas. Toutefois, la réalité est que beaucoup, malheureusement, ne connaissent pas vraiment celui que pourtant ils invoquent. Alors bien souvent, ils demandent mal ou à côté. Et voilà que Nicodème accomplissait carrément ce que Jésus préconisait. Il venait vers la lumière, croyant en lui. Car en effet, s'il peut dire « venu de Dieu » et qu'ensuite il vienne, lui, Nicodème, vers Jésus, il faut forcément que quelque part il ait cru en lui, sinon il n'aurait même pas fait un pas envers lui. Je note en plus que, bien que Nicodème fût venu de nuit, Jésus ne lui fit pas de remarques à ce sujet. Il ne le traita pas de peureux, par exemple. Non, il disait simplement que ceux qui viennent vers la lumière dans cet état d'esprit de foi deviendront eux aussi des enfants de lumière. Or, la lumière, c'était lui, Jésus. Bien que n'ayant pas conscience de mal agir dans sa vie, il devait se trouver tout de même chez Nicodème quelque chose qui ne tournait pas rond, puisque Jésus proposait à ceux qui venaient l'écouter de devenir des enfants de lumière. Or, quand on est en passe de devenir, c'est justement parce que la chose n'est pas encore. Et lui, Nicodème, venait à cette fameuse lumière. Donc si je comprends bien, je pense que Nicodème ne se sentait pas trop un de ces enfants de lumière. Il devait le ressentir en lui-même. Quand on a suffisamment de lumière, on ne vient pas en chercher, me semble-t-il. Étonnant Nicodème, déjà en tant qu'homme honnête. À ce moment-là, Nicodème n'était pas encore un disciple de Jésus, mais il en avait déjà l'allure et surtout la façon d'agir. Aller voir Jésus quand on ne sait pas trop, c'est la marque indélébile d'un futur disciple et même celle d'un disciple tout court. Nicodème ressemblait en effet fortement à ce que disait Jésus. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nicodème venait donc à Jésus, la lumière, afin que ses œuvres de docteur de la loi fussent manifestées, c'est-à-dire mises au grand jour, les éprouver en somme. Il ne s'en cachait pas. Pour lui, elles étaient faites en Dieu, ses œuvres, puisque Nicodème suivait la loi. Il y avait juste que, voyant Jésus être ce qu'il était, le voyant agir, enseigner sa doctrine, et en plus faire des miracles, il y trouvait quelque chose de vraiment autre. Oui, quelque chose de totalement autre. Il vint donc vers lui la lumière véritable, celle qui est autre, pour que toutes ses œuvres de docteur en loi fussent mises au grand jour par rapport à Jésus et son autre lumière. Bien noble état de cœur en vérité que celui de Nicodème. Peu d'hommes, moi le premier, et surtout ceux qui se disent être des docteurs en loi, ont eu cette noble démarche. Démarche qui est pourtant naturelle pour un chrétien que de venir à Jésus quand on n'est plus trop sûr de soi et de sa vie chrétienne. Il fut un temps dans ma vie où j'entendais sans cesse qu'il fallait venir à Jésus. Mais c'était pour moi quelque chose d'abstrait. Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Cependant, cette sorte de brouillard, créé par des mots et des phrases sans réelle substance, m'amena peu à peu à me confier en lui, comme à l'aveuglette, parce que je n'avais pas d'autre issue que celle-ci. Et c'est à partir de là que tout a commencé pour moi, car en effet, les réponses que j'attendais m'arrivèrent au fur et à mesure de mes besoins réels, bien longtemps après les « venez à Jésus » habituels, sans réel contenu, sans substance véritable, comme des trompe-l'œil, comme des mirages. Oui, des phrases, des mots, des appels, des invites, mais sans savoir vers qui exactement j'étais invité. Et pour cause, Jésus ne m'était jamais présenté. Ce qui m'était présenté, c'était certains besoins vagues, mais pas celui qui était censé s'en occuper, sauf par les dires des prédicateurs. On me disait ce dont j'avais besoin, paraît-il, mais dont je n'étais pas convaincue. Moi, j'avais besoin d'une personne, mais on me présentait à la place mes besoins. Comment croire en celui qu'on ne connaît pas? N'est-ce pas le travail des ouvriers de faire en sorte qu'on le connaisse, de sorte que l'on en vienne à croire en lui? Jésus a bien dit « croyez en moi », c'est-à-dire en lui qui était là devant eux. Depuis, je fais le contraire. Je fais en sorte de ne plus dire « venez à Jésus » aux autres, mais je fais du mieux que je peux pour le présenter, lui, par les Écritures et l'Esprit des Écritures, afin qu'ensuite ceux ou celles qui l'auront entreaperçu en viennent à l'aimer, être sauvés par lui et le suivre. D'autres ne voudront pas de lui ni de ce qu'il représente. Ce sera leur choix, car dans l'amour, il ne peut y avoir aucune obligation quelconque. Sinon, ce serait quelque chose de forcé. Or, Jésus appelle. Il ne force personne. Pour revenir à Nicodème, il était de la caste des pharisiens. De toute évidence, Nicodème ne vivait pas bien cette loi qu'il pratiquait et enseignait. La preuve, c'est qu'il reconnaissait en Jésus un docteur venu de Dieu, c'est-à-dire un docteur qui prêchait et qui vivait une loi bien différente de celle que lui, Nicodème, vivait. Sans cela, il n'aurait pas dit « docteur venu de Dieu ». Parlant ainsi, Nicodème se présentait alors comme étant un simple docteur en écriture, c'est-à-dire sans le venu de Dieu, qu'il attribuait à Jésus seul. En cela, aussi, Nicodème était très honnête envers Jésus. Il reconnaissait ainsi implicitement que lui, Nicodème, ainsi que ses collègues, n'avaient pas été forcément envoyés de Dieu, qu'eux étaient en place depuis longtemps, mais que Jésus, envoyé de Dieu, était là maintenant et qu'il voulait le lui dire ouvertement. En somme, Nicodème sentait dans le plus profond de lui-même la nécessité de vivre autre chose que ce qu'il vivait actuellement. Mais comment une telle chose pourrait-elle se produire, se dit-il. Alors il vient voir Jésus de nuit, ce Jésus qui l'attire tant, au point d'accepter d'être le représentant de ses autres collègues, un peu comme un ambassadeur. Comment l'aborder? Que lui dire? Comment lui dire la chose? Voilà un petit peu l'état de cœur de Nicodème cette nuit-là, et que je propose à votre perception personnelle de la chose. Alors, ne sachant pas trop quoi lui dire, il lui rapporte tout simplement ce que lui et les autres pensent de lui. Il dit en effet qu'ils savent, que pour eux c'est une évidence qui vient de la part de Dieu. On voit en même temps qu'il n'était pas très heureux Nicodème, pas très rassuré non plus. Sa discipline du doctorat ne le satisfaisait sûrement pas. Par contre, je suis convaincue qu'il ne faisait pas ce qui est mal cet homme, et que ses œuvres ne lui semblaient pas non plus mauvaises, sans quoi, comme le dit le texte précédent, il ne serait pas venu devant Jésus la lumière. Car en effet, si ses œuvres avaient été mauvaises, il ne serait tout simplement pas venu vers Jésus, par crainte de se voir dévoilé dans ses mauvaises œuvres. Je crois plutôt que Nicodème et ses collègues avaient des questions sans réponse. S'ils avaient eu ces réponses, ils ne seraient pas venus vers Jésus. Mais comment poser ces fameuses questions? Ou comment poser des questions quand on ne connaît même pas son besoin, quand on ne sait pas le cibler? Ne sachant pas trop comment l'aborder, il dit alors à Jésus « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Déclaration tout à fait claire en elle-même. Ainsi, nous voyons que Nicodème donna le titre de docteur à Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que, selon lui et les autres docteurs, il faisait des miracles. Un docteur venu de Dieu. Je me demande si le fait de parler ainsi à Jésus n'était pas fait comme pour créer une sorte de lien amical entre lui et Jésus, lien d'amitié qui se serait trouvé entre deux docteurs. Un peu comme une identification entre lui et Jésus par un travail commun, le doctorat. Comme deux personnes qui seraient censées se comprendre et s'apprécier de par leur travail commun, ce qui est normal en soi. Cependant, voyons quand même que Nicodème parlait au nom de tous les autres docteurs. Nous savons. Ce n'est pas rien. Il dit clairement ce qu'il a entendu d'autres docteurs, bien que ceux-ci ne sont pas là sur le lieu de cette rencontre personnelle, tellement personnelle. Peut-être aussi que pour lui, le titre de docteur était le titre le plus digne qu'il pouvait donner à un homme, et donc à Jésus. Je dis cela car on voit bien que Nicodème avait de bonnes dispositions envers lui. Par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est que Nicodème associa le titre de docteur venu de Dieu avec le fait de faire des miracles. C'était en tout cas ce qui ressortait de la conclusion de tous les autres docteurs, en plus de celle personnelle de Nicodème. Là, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien car en tant que docteur de la loi, Nicodème aurait dû savoir que les Écritures ne parlent pas du cas d'un docteur de la loi qui aurait fait des miracles. Personnellement, je n'en connais pas dans les Écritures. Mais bon, je peux avoir oublié ou bien pas lu avec suffisamment d'attention. Peut-être aussi que pour Nicodème, un docteur ce n'était pas forcément l'idée que nous, on peut s'en faire. Peut-être en avait-il une vue bien plus haute et donc il retrouvait cette notion haute dans des hommes de Dieu cités dans les Écritures et auxquels on ne pense pas forcément. Peut-être que Nicodème avait réellement vu dans les Écritures le cas de docteurs faisant des miracles. Peut-être même Moïse après tout, puisque celui-ci annonçait la parole de Dieu et faisait des miracles en son nom. Peut-être aussi attribuait-il le titre de docteur à tous les prophètes qui firent des miracles. Je ne sais au juste. Mais finalement, est-ce que, pour Nicodème, l'association de docteurs et de docteurs faisant des miracles n'était-elle pas, pour lui, le point de vue le plus élevé qu'il attribuait à Jésus? Peut-être bien après tout. Je penche même de ce côté. Alors que penser de cette notion existante dans les pensées de tous ces docteurs de la loi? Dieu nous a envoyé un docteur, car il me semble bien que c'est là ce qu'ils croyaient, ces docteurs. En somme, ils pensaient que tout le peuple, eux y compris, avait besoin d'un enseignant de haut rang capable de résoudre leurs problèmes de mal vivre devant l'Éternel. Un peu comme si l'Éternel n'était plus d'accord avec leur vie, leurs pratiques, et donc il leur envoyait un grand docteur à la hauteur de la tâche. Je pense que c'est cela, parce que si pour eux, il s'était agi de mauvaises actions et de graves péchés, ces docteurs auraient alors dit « Nous savons que tu es quelqu'un que Dieu nous envoie pour nous réprimander, par exemple. » Mais non, ils savaient. Ils savaient à l'intérieur d'eux-mêmes que Jésus était principalement un docteur. Et c'est bien normal, puisqu'ils l'entendaient enseigner les foules. Même si son enseignement était vraiment différent que le leur, Jésus enseignait. En effet, quand Jésus enseignait, il le faisait de telle manière que ceux qui l'entendaient étaient subjugués par la sagesse de cet enseignement, qui fait que chacun, petit ou grand, pouvait se l'accaparer à cause du côté évident de la chose. De plus, Jésus le faisait de manière à ce que tout soit ramené à son Père, à ce qu'on en vienne à croire au Père et aussi à croire en lui, celui que son Père leur envoyait comme un intermédiaire et sauveur, qu'après Moïse l'Éternel leur envoyait maintenant un autre intermédiaire. Il y avait même des fois où Jésus enseignait par le moyen de miracles, comme quelque chose fait pour appuyer ce qu'il venait d'enseigner. Quand ça arrivait, c'était alors le miracle lui-même qui enseignait, sans aucune parole supplémentaire. Donc oui, pour ces docteurs en loi, quand ils disaient par la bouche de Nicodème, qui savait que Jésus était un docteur venu de Dieu, c'est parce qu'ils le pensaient vraiment, même si ce fameux doctorat les dépassait de loin. En somme, ils n'avaient pas d'autre terme à employer que celui de docteur. Mais pour revenir à Nicodème et ses collègues, je me demande bien, quand même, pourquoi ne donnait-il pas au minimum le titre de prophète venu de Dieu? Il y avait aussi Jean-Baptiste, après tout, qui le précédait et auquel était attaché le titre de prophète du Très-Haut. Personnellement, je suis enclin à penser que si Nicodème ainsi a pu donner le titre de docteur au fils du charpentier, c'est qu'il faisait le lien avec l'enseignement général que Jésus prodiguait autour de lui, docteur venu de Dieu, étant pour lui l'expression haute du véritable doctorat. Ceci dit, franchement, est-ce que vous vous déplaceriez de nuit pour aller dire de telles choses si hautes et si nobles à quelqu'un en particulier pour lui dire « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Le feriez-vous, ce genre de déclaration? Non, quand on se déplace de nuit pour voir quelqu'un, ce n'est pas pour lui dire des flatteries, des compliments, même si ceci n'en était pas. Non, en principe, quand on vient voir quelqu'un de nuit, c'est parce qu'il y a une urgence, et ce, par rapport à une situation. Quelque chose de suffisamment grave, d'important. Alors que là, dans ce moment très particulier, Nicodème disait seulement à Jésus « Nous savons ». Par conséquent, il faut en conclure que Nicodème et ses collègues ne parlaient pas de quelque chose de grave qu'il fallait régler au plus tôt. Mais voulez-vous regarder maintenant avec moi la subtilité du texte inspiré? Car en effet, quand je dis que cette déclaration de Nicodème ne comportait rien d'autre, c'est faux. C'est vrai et c'est faux en même temps. En effet, dans le texte cité par Nicodème, c'est vrai. Mais dans la suite du texte, c'est faux. Pourquoi? Parce que le texte inspiré poursuit comme ceci. Jésus lui répondit. Mais comment cela se fait-il? Il n'y avait pas pourtant de questions dans la déclaration que fit Nicodème et ses collègues. Il y avait seulement une déclaration qui est celle-ci. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il n'y avait donc pas, effectivement, de question spéciale dans cette déclaration générale que fit Nicodème de la part de tous les docteurs. On répond à quoi en général? N'est-ce pas une question? Or, justement, il est écrit que Jésus répondit. Mais où était donc cette question? Demandera quelqu'un. Vous ne la trouverez nulle part, car elle n'existe pas dans le texte écrit. Cette question n'existe que par le fait que Jésus l'a connue et que c'est à cette question non écrite qu'il a répondu à sa manière. Donc, si on veut bien l'admettre, c'est la réponse de Jésus à cette non-question qui sera censée nous dévoiler ce que voulaient demander à Jésus tous les docteurs, Nicodème étant leur porte-parole. Et quelle était cette question dans ce cas? Pour essayer de la découvrir, lisons tout d'abord ce que Jésus répondit à cette question non posée, mais posée quand même. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Étonnant. On dirait que Jésus change carrément de chapitre. Eux parlent d'une sorte de super doctorat, et lui, Jésus, leur parle d'une autre manière de voir. De voir dorénavant un royaume de Dieu. Chose inconnue à l'époque. Or, Jésus déclarait aussi que ce royaume était venu vers eux. A-t-on jamais vu un royaume quelconque venir vers quelqu'un? N'est-ce pas plutôt le contraire? N'est-ce pas l'homme qui est censé aller en direction d'un royaume, généralement? Un royaume qui se déplace. Qui se déplace en un homme. Et maintenant, il dit que pour voir ce royaume, il faut naître de nouveau. Naître de l'esprit. Serait-ce alors que ce royaume serait esprit plus que matière? Est-ce des fois, en parlant ainsi, Jésus ne faisait-il pas naître quelque chose de bien spécial en Nicodème? Émettre une notion nouvelle, n'est-ce pas en même temps la créer en l'autre qui l'écoute? Et c'est ainsi que peu à peu, en parlant de cette manière, Jésus créera en Nicodème une nouvelle notion, une nouvelle approche censée le détacher des choses de la terre, ce qui le privait du royaume de Dieu. Ce Dieu qui, lui, est dans son endroit le ciel. Ciel qui pourtant se déplaçait vers l'homme par la venue du Fils de ce Dieu justement. Mais au fait, ne sommes-nous pas, nous aussi, un peu dans la situation de Nicodème de temps en temps? Vers quoi nos yeux sont-ils tournés? Mais je voudrais reprendre maintenant la situation générale de ce moment si particulier. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Dans le maître, nous entendons bien le sens de maître en doctorat. Voilà donc ce que Nicodème déclara en premier à Jésus cette nuit-là. Pour ces docteurs, Jésus était donc un maître, suivi du terme docteur. Donc, en somme, un super docteur. Jésus, lui, parlait de sa doctrine, et de plus, il disait qu'elle ne venait pas de lui. Donc, elle venait d'autre part. Il ne disait pas de lui qu'il était un docteur, mais qu'il avait une doctrine. Une doctrine qui ne venait pas de lui, mais de son père. Jésus avait beau dire ces choses, apparemment ça ne rentrait pas, et pour cause. Qui croirait en effet à une doctrine venant d'un Dieu lointain? Un Dieu invisible dans un royaume invisible, et qui en plus aurait un fils. Donc forcément une épouse, elle aussi invisible mais réelle. C'est vrai qu'il y avait bien Marie, sa mère, mais sincèrement elle n'avait rien d'une déesse. Mais je voudrais de nouveau revenir largement en arrière de peur d'occulter la situation générale par laquelle nous pouvons visualiser l'ensemble de la situation, et ce n'est pas une petite affaire. Nicodème ne posait en effet aucune question. Il affirmait seulement une chose, nous savons. En somme, Nicodème se faisait le fidèle porte-parole de tous les autres docteurs. Où se situait dans ce cas le problème des autres docteurs? En effet, si Jésus était pour un docteur venu de Dieu, pourquoi tous ses collègues ne se rangeaient-ils pas naturellement derrière lui le fameux docteur venu de Dieu? Entre docteurs, cela n'aurait-il pas été normal? En vérité, Jésus possédait en lui-même quelque chose que tous ses docteurs n'avaient pas. Il leur manquait une petite étincelle de vie divine qui fait que tout change lorsqu'elle arrive en quelqu'un. Pire, ils n'étaient peut-être pas trop sûrs que leurs œuvres fussent suffisamment nettes et justes pour venir les présenter à la lumière. N'oublions pas ce que nous avons lu plus haut. Quiconque fait le mal ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et Jésus avait encore dit aussi ceci. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dans ce cas, il y avait donc les uns et les autres, et Nicodème, l'homme seul, se trouva être, on ne sait pas pourquoi au juste, le représentant de tous dans cette rencontre si particulière avec Jésus, si personnelle. Quelle était donc la différence entre Nicodème et les autres docteurs? Il y avait que Nicodème était venu vers Jésus et les autres pas. Au chapitre 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, etc. Le « lui » faisait ici la différence. Pourquoi? Peut-être à cause de ce que nous venons de lire plus haut. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ces docteurs de la loi étaient apparemment dans l'impossibilité de faire le lien entre ce qui était écrit d'un sauveur à venir et celui qui était là devant eux, car quelque chose les en empêchait. Jésus le savait bien. Il savait en effet quelles étaient leurs œuvres. Il savait par qui et par quoi elles étaient produites. C'est pourquoi il dit ceci à Nicodème en tant que remède. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus Sauveur. Voilà, le temps est donné. Jésus déclare ici de la manière la plus solennelle qui soit, qui est non jugé et qui est jugé. Car celui ou celle qui croit en lui n'a même pas à passer par le jugement dans ce cas. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc au Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous voyons ici très clairement que Jésus ne parle que de croire au Père, c'est tout. Et le tout par le moyen de sa parole à lui Jésus, qui amène les gens justement au Père. Évidemment, une telle déclaration aussi nette, ça déblaie sérieusement certains terrains embrouillés par des doctrines diverses qui ne sont que pure invention. Mais voyons en même temps qu'il s'agissait d'écouter la parole du Fils unique de Dieu. Écouter ce que lui disait de la part du Père pour justement que l'homme en vienne à croire au Père. Mais comment le connaître, ce fameux Fils, afin de croire en lui et surtout en venir à écouter consciencieusement sa parole ? Car il est évident que pour croire en sa parole, encore faut-il déjà croire en lui, n'est-ce pas ? C'est ce que Jésus entreprendra de faire pour cet honnête homme nommé Nicodème, afin qu'il croie en lui déjà. Et pour faire cela, il le transportera peu à peu du visible vers l'invisible. Jésus connaissait le cœur de Nicodème. Il connaissait son besoin urgent. L'Esprit de Christ le travaillait au plus profond de lui-même. En fait, c'était le Père qui attirait Nicodème vers Jésus, et en même temps, l'Esprit de Christ le travaillait de manière à ce que Nicodème croie au Père, grâce à ce côté autre de Jésus, autre que la normalité qui était la sienne actuellement. Je pense en effet que Nicodème croyait en Dieu, mais pas forcément au Père. Et nous ? Nous voyons ici clairement que l'œuvre de Jésus, entre autres, fut que les gens en viennent à croire en Dieu et surtout à croire au Père. Jésus disait « mon Père », mais son œuvre qui continue encore aujourd'hui est que les hommes puissent dire eux aussi « notre Père ». Oui, qu'il ait réunion totale sur ce point précis qui parle plus d'un Père que d'un Dieu. Un Dieu un peu vague, lointain, à la différence d'un Père qui lui est un proche et qui le prouve. De plus, Jésus déclarait ici le plus formellement du monde que celui qui croit à celui qui a envoyé Jésus est d'ores et déjà passé de la mort à la vie, et que dans cette vie-là, il n'existe aucun jugement, car il n'existe que la vie dans cet autre endroit. C'est en effet dans le jugement qu'est le mal et la condamnation possible, pas dans la vie. C'était le moment pour Nicodème de faire la rencontre en esprit en vérité avec Jésus, même si Jésus n'était pas encore passé par la croix. Cette rencontre était devenue la plus urgente parmi d'autres en Nicodème. Pour Nicodème, le jour s'était réservé pour la loi et son doctorat, et la nuit, eh bien, elle fut pour Jésus, pour aller voir la lumière qui luisait pendant la nuit. L'emploi du temps de Nicodème était donc chargé. Il ne devait pas beaucoup dormir. Et je suis enclin à en penser que bien des hommes ne doivent pas beaucoup dormir tant qu'ils n'ont pas eu ce même genre de rencontre avec Jésus. Mais après, oui. Après, il dort bien, et même beaucoup, car il est en paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, il se trouve qu'on est enfin en paix avec soi-même. Ce soi-même qui nous dégoûtait avant, alors que maintenant, il sert en tant qu'instrument de justice. Il lui fallait à tout prix rencontrer ce Jésus autrement que d'habitude. Comme par exemple quand il l'entendait enseigner un peu partout. Dans ces moments-là, Jésus était autre que ce qu'il paraissait sur son physique, car c'est sa parole qui prenait le pas sur ce qu'il était physiquement. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Oui, il lui fallait autre chose en tant que docteur de la loi, Nicodème. Il lui fallait un enseignement personnalisé. Il fallait que Jésus lui dise quelque chose de personnel, adapté à son besoin réel, et en plus adapté à un enseignant, quelqu'un qui est censé retransmettre ce qu'il sait, car c'est son métier. Je pense d'ailleurs que c'est le besoin de tous les hommes, docteurs en loi ou pas, avoir un enseignement personnalisé par Jésus, un enseignement pour soi-même, au cas par cas. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait aussi cohérence dans l'enseignement donné, c'est vital. Personne ne peut se satisfaire de choses à peu près, et s'il s'en satisfait, alors je crains pour lui. Le premier vent de doctrine sera pour lui, et avec lui les pièges du malin, tout ce qui paraît beau. Mais avant d'aller plus loin, prenons bien en compte que ce fut tout d'abord à un docteur de la loi juif que Jésus fit cette fameuse déclaration au sujet de naître de nouveau. Ce n'est pas aux nations. Même l'apôtre Paul passa en second au sujet de cette nouvelle naissance. Ce n'est pas rien d'insérer cette notion supplémentaire dans notre espace de compréhension personnelle. Cela change beaucoup de choses en effet. Ce n'est pas nous les nations qui avons reçu les oracles de Dieu. Ce sont tout d'abord les Juifs qui les reçurent. Or ici Jésus parlait à un docteur de la loi juif, qui avait lui aussi ses fameux oracles, dont quelque chose qui devait être plus entendu que lu. Oui, cela fut tout d'abord adressé à des Juifs, et tout spécialement à des Juifs sous la loi de mort et de condamnation. Il fallait donc que les Juifs fussent servis en premier, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas justice que celui qui est sous condamnation soit servi en premier? Et c'est ce que fit Jésus, justement. Puis vint l'apôtre Paul et son enseignement très spirituel, qui englobait toute chose en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que Nicodème était en Christ? Non, pas encore. Plus tard, oui. Nous le verrons plus loin dans ce document, et d'autres sur le même sujet. Nicodème avait donc besoin d'être en Christ, ce qui est l'accomplissement total de la nouvelle naissance, son achèvement en quelque sorte. Or, être en Christ, c'est être dans l'Éternel. S'être vu enfin dans l'Éternel de par sa propre œuvre. Ce n'est, en effet, que lorsqu'on voit par d'autres yeux que nous sommes en Christ, que nous sommes véritablement nés de nouveau. Alors oui, dans ce cas et effectivement, toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas du tout une sorte de credo que l'on cite et cite encore lors des cultes évangéliques, mais bien une réalité vivante. Car en effet, je dois hélas constater que ces textes, si souvent répétées comme des redites, ne sont pas vécues comme telles. Elles se bornent seulement à un savoir. On devrait plutôt être rebelle à ce genre de choses, de l'ordre de « le savoir pour le savoir, j'accepte bien cela aisément, j'aime bien cela ». Donc pour revenir au sujet de naître de nouveau, si on passe volontairement sur le fait que dès qu'il commença à entreprendre Nicodème, Jésus cita l'épisode douloureux et grave de Nombre 21, quand il évoquait le et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Alors on manquera certainement l'essentiel de la situation, et même on manquera le sujet tout entier. Situation que Jésus avait voulu justement créer en parlant ainsi à Nicodème le docteur. Oui, le docteur de la loi qui connaissait bien lui aussi les Écritures. Seulement il se trouve que Jésus fut obligé de lui dire à ce sujet « Ne sais-tu pas ces choses ?» En effet, je suis malheureusement obligée de constater que le système évangélique que je nomme la chrétienté, désolé, je n'ai pas en ma possession d'autres termes possibles, cette chrétienté n'évoque jamais en effet le passage de Nombre 21 que Jésus cita pourtant à Nicodème, qui avait justement besoin de naître de l'esprit. On cite bien Jean 3, 16, on le cite comme on le présenterait un trophée. On le cite même comme étant le plus beau verset de toute la Bible, mais en omettant toujours le passage de Nombre 21 contenu pourtant dans l'ensemble du passage en question. Combien tout ceci est étrange. On dit bien à ceux et celles qui écoutent, il vous faut naître de nouveau. C'est sûr, mais sans évoquer ni expliquer le texte que Jésus cita pourtant, et par lequel celui qui écoute sera censé naître de nouveau. En tout cas, si l'on comprend le secret bien caché dedans, secret qui permet de voir ce qui ne se voit pas. Car pour voir ce qui ne se voit pas, il faut que soient créés des yeux faits pour voir. Comme cela est écrit, mais à l'envers dans ce cas, et en bénéfice. Car en effet, si l'Écriture déclare à plusieurs reprises « Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient point », c'est en direction de ceux et celles qui vivent sous un régime qui permet cette sorte d'anomalie, cette sorte d'amputation de sens. Mais pour ceux et celles qui ne veulent plus de cet esclavage, alors ils ont droit en prime de recevoir les fameux yeux qui voient et les fameuses oreilles faites pour entendre. Et non pas à le rechercher, car c'est cadeau. Je reprends. Le résultat? Eh bien, celui qui lira ce passage amputé d'une partie, à savoir Nombre 21, il ne naîtra pas de nouveau, et ne recevra pas de nouveaux yeux pour voir. Alors, comme il est parlé que Dieu a tant aimé, y partira sur le thème de l'amour, mais sans comprendre en quoi exactement Dieu a tant aimé le monde, et encore moins comprendre ce qui se passa sur la croix, sauf d'une manière très technique, technologique. Il vivra et il y enseignera de la théologie, mais sans le Dieu vivant de cette fameuse théologie. Si vous êtes dans une pièce complètement dans le noir et que quelqu'un sache où est l'interrupteur, et qu'il l'enclenche, pensez-vous qu'il faudra apprendre à voir à celui qui auparavant était dans le noir? Non, certainement pas, car on ne commande pas à des yeux ouverts, ça marche tout seul. Alors, nous pouvons avoir confiance, frères et sœurs, car dans ce cas, nous avons avec nous celui qui est pour nous. Oui, je dis bien pour nous, et pas avec nous, car dans ce cas, c'est son approbation et pas la mienne. Je peux vous assurer que personne ne naît de nouveau en lisant Jean 3,16 seul, c'est-à-dire sans l'explication que Jésus en donne en citant Nombre 21. C'est impossible, car dans ce cas, tout le texte est amputé du moyen divin qu'est l'esprit pour savoir et comprendre l'ensemble que Dieu a mis en œuvre, non pour dire seulement son amour a tant aimé, mais pour nous en donner les détails et surtout nous en montrer sa grandeur par amplification de l'esprit. En somme, sur la croix, il y a bien le pardon des péchés, oui, mais on ne sait pas forcément qu'il y ait prévu aussi un don, le don de l'esprit, qui est justement donné pour que nous puissions voir tout l'ensemble, et surtout le tant aimé que déclara Jésus avec la force que donne l'esprit. Je voudrais ici faire une parenthèse, car je crains qu'un certain flou vous parvienne par manque d'informations précises. En effet, les phrases au-dessus ne font qu'évoquer quelque chose, mais sans en donner ce qui devrait le remplir. Alors sachez bien que si c'est ainsi, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Je veux dire qu'il y a un commencement et une fin, et qu'il y a aussi un entre-deux forcément. Dans ce que j'écris au-dessus, j'évoque le fait que si on prêche Jean 3,16 et qu'on mette sous silence Nombre 21 qui en fait pourtant partie, alors on manquera l'essentiel du contenu général que Jésus veut nous montrer. Mais ce sera plus loin, vers la fin, que viendra la solution et surtout l'éclaircissement. Alors vous comprendrez en bien plus grand ce que j'évoque ici d'une manière très partielle. Alors rendez-vous à plus loin si vous le voulez bien. Donc Jésus nous dit que Dieu a tant aimé le monde, alors que c'était son Fils qui était sur la croix. Est-ce logique? Est-ce raisonnable pour la raison humaine? Qui aimait? Qui aimait tant le monde? Qui a dit cela? Le Père? Le Fils? Mais n'est-ce pas Jésus qui déclara que c'est Dieu lui-même qui a tant aimé le monde? Comment comprendre ces choses? Comment comprendre que ce soit le Fils qui fut crucifié qui dise que dans ce moment précis que Dieu aimait tout le monde? N'y a-t-il pas une anomalie? Je pense que c'est ce qu'a compris ou reçu par révélation l'apôtre Paul quand il déclarait ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cette déclaration, est-ce que Paul l'a dite juste comme ça pour expliquer quelque chose, ou bien parce qu'il a reçu la même chose que je vous propose en dessous, en forme de questionnaire à répondre face à face avec soi-même? Où est-ce que ça se passait? Sur la croix ou autre part? Ou les deux? Où exactement Dieu était-il en Christ, réconciliant le monde avec lui-même? N'est-ce pas sur le chemin qui mène au pays promis? Ce pays promis n'était-il pas promis à ceux de la foi? Et qui est donc le chemin invisible rendu visible? Et nous? Où étions-nous? Et le monde sauvé alors? Est-ce juste le monde d'alors? Et l'esprit qui était là pour nous ouvrir les yeux, n'y était-il pas, lui aussi, dans ce temps-là? Mais pouvait-il être là? Ne fallait-il pas que celui qui devait venir le rendre visible par la croix? Alors ne peut-il pas, aujourd'hui encore, ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passait? Oui, bien sûr, car Dieu ne ment pas et il est fidèle. Mais à condition que Nombre 21 soit montré, car justement Nombre 21 ne peut être vu et compris que par l'esprit. Mais comment montrer une chose si l'on ne l'évoque même pas, cette chose? Alors pourquoi Jésus a-t-il évoqué ce texte de Nombre 21 qui parle de serpent brûlant? À quoi ça sert? Est-ce fait pour punir une certaine désobéissance, ou bien pour révéler celui qui devait venir comme sauveur et comment il s'y prendrait. Alors, que recevons-nous à la croix si toutefois nous regardons non sur la croix, mais en nombre 21? Le seul pardon des péchés? Mais n'est-ce pas aussi le don de la vue? N'est-ce pas l'esprit? Et dans ce cas, qu'est-ce qui a sauvé exactement ceux qui regardaient? L'Éternel? Jésus? La croix? Le don de l'esprit? L'homme? Peut-être tous? Mais dans ce cas, est-ce que tous les éléments sont séparés entre eux? Ou bien sont-ils un? Dans ce cas, le « car Dieu a tant aimé » suivi de « qu'il a donné », que contient-il réellement? Ou comment tirer bénéfice de la croix de Jésus-Christ si je ne vois pas ce qu'elle contient? Qu'a fait Jésus en permettant que son Fils meure de cette manière? N'est-ce pas aussi le don de l'Esprit qui permet que l'on voit enfin la grande œuvre de Dieu en et par Jésus-Christ? Et ce fameux « alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous » qu'a évoqué l'apôtre Paul, ne parle-t-il pas d'un temps qui n'est pas un temps, puisqu'il englobe tout en une seule chose, Christ hors loi sur la croix? Puis le don de l'Esprit fut donné aussi aux nations, après avoir été donné aux Juifs. Pourquoi l'Esprit fut-il donné aux nations? Pour que les nations voient la grave faute de ces mauvais Juifs qui vivaient sous le régime de la loi des commandements et des ordonnances de ce temps-là? Mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il s'agissait du monde entier dans tout ce passage? Quand je visualiserai la croix de Jésus-Christ par l'Esprit, y verrai-je encore le pauvre Jésus qui paie pour mes sales péchés? Vous savez bien, un peu comme celui que je vois un peu partout cloué sur des croix diverses, aussi bien au coin des rues qu'autour du cou, ou encore tout en haut des églises bâtiments bien visibles à l'œil. Est-ce que la dorure dont elles sont recouvertes serait l'image de l'Esprit? La croix vue par l'Esprit, n'est-ce pas plutôt la vue de mes rébellions internes vaincues par quelque chose d'indéfinissable, mais très puissant comme dans ce temps-là? Mais ces rébellions internes n'étaient-elles pas là aussi pour m'ouvrir les yeux par ce moyen? Alors, si Dieu prévoyait ces choses à l'avance pour mon propre bénéfice, ai-je encore le droit de voir la croix de Jésus-Christ comme une source d'accusation? Et si le venin qui était en moi passa sur celui qui l'absorbait en lui-même? N'étais-je pas alors en lui, vu qu'il y avait bien un lien de venin existant, mais que c'était lui qui le prit? Ou dit autrement, n'y a-t-il pas dans ce cas lien entre le Sauveur et le Sauvé? Et dans ce domaine, y avait-il uniquement des Juifs? Le péché n'était-il entré dans les membres uniquement des Juifs? Ou comment relier ce petit groupe de gens qui expérimentaient cette chose et le monde entier? Aujourd'hui, qui ne se cherche pas un peu? Qui ne se demande pas quelle est sa place personnelle sur la terre? Frères et sœurs, verrons-nous enfin ce que nous sommes? Et où sommes-nous réellement? Car ce sont ces choses qui déterminent dans ce cas nos pensées, nos choix, nos décisions, notre vie tout simplement. N'est-ce pas la vue que donne l'Esprit qui nous rend à la vie réelle? En effet, c'est quand on a vu ce que nous sommes qu'enfin on vit à la manière de ce que nous avons vu, que les choses s'harmonisent, se mettent en place. N'est-ce pas ici le « considérez-vous comme » de l'apôtre Paul? Et que contient alors la prière incessante de Paul afin que Dieu donne aux Corinthiens si charnels un esprit de révélation dans sa connaissance? Je reviens sur le sujet. Et dans ce cas, quelle vie pouvaient avoir ceux qui avaient été sauvés par de la piqûre du serpent? Vivaient-ils en esclaves? Vivaient-ils comme des gens obligés de devoir rendre quelque chose à Dieu? Voit-on cela dans le texte? Non, ils revenaient de loin et ils le savaient bien. Ils vivaient comme une sorte de seconde vie, une vie maintenant devenue possible après qu'un serpent ait été vaincu, mais vaincu à l'intérieur d'un autre, en lequel Dieu était. Il fallait cela pour que le Père le ressuscite. Le Fils mourait, mais le Père restait à l'œuvre. Et où allait le venin? Il fallait bien quand même qu'il aille quelque part ce venin, n'est-ce pas? Et c'était quoi exactement ce venin? N'était-ce pas ce par quoi le peuple d'alors périssait? Mais ce temps, est-ce dans le temps de la loi ou dans le temps de la foi? C'était dans le temps de la loi, alors qu'en même temps, il suivait un rocher spirituel qui était Christ. Mais ça, voyez-vous, il ne le savait pas. Et nous, le savons-nous? Je reprends le sujet depuis bien plus haut dans le document de base. On sait bien en effet qu'il s'agit d'un serpent sur un poteau. C'est vrai. Mais de là à faire le rapport avec la foi et la nouvelle naissance qui va avec, alors là, il y a quelque chose qui coince un peu. Ça bloque parce qu'il y a un détail invisible, mais pourtant très clair, qui explique le tout, mais qui n'est pas très connu, me semble-t-il. Je dis cela juste parce que je n'en ai jamais entendu parler. Ça doit exister, c'est sûr, mais ça doit être une sorte de rareté, sans quoi la chose serait largement connue de tous. Si c'était connu, on comprendrait certainement mieux le « n'est point jugé » que déclara de manière affirmative Jésus notre Sauveur. J'espère en tout cas que ce document vous sera par conséquent utile dans ce sens, c'est-à-dire en voyant cette chose si particulière. Cette chose si particulière qui se voit sans se voir. Pour cela, j'insère tout de suite le texte de Nombre 21, afin que l'on se comprenne bien entre nous et que l'on sache bien de quoi on parle. Nombre 21, verset 1. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » La foi qui compte sur l'Éternel sur une chose promise. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leur ville, et l'on nomma ce lieu Horma. Donc ici, c'est l'exaucement de la prière de la foi en accord justement avec la volonté de Dieu sur ce sujet précis. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu, contre Moïse, en ces termes. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Incrédulité. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Ce fut ici la réponse de l'Éternel face à l'incrédulité ambiante. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Puis voici le deuxième texte de référence à ce sujet, écrit dans Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car, n'oubliez pas, Nicodème, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Élevé de cette manière dans Nombre 21, tant aimé le monde dans Nombre 21. Mais oui, bien sûr, si vous ne croyez pas cela, alors vous ne pouvez pas croire non plus au « et comme » que prononça Jésus. Vous ne pourrez donc jamais faire le lien direct et total entre les temps et les dispensations, car il vous manquera toujours le moyen de voir la chose présentée. Sachez bien que si ceux qui mettent des croix partout, aussi bien au coin des rues qu'au-dessus des estrades des prédicateurs, croyaient de cette manière-là, ils ôteraient bien vite ces choses. Tout comme ceux qui placent sur l'estrade des prédicateurs un bandeau avec Jean 3,16 comme toile de fond, mais sans jamais en donner l'explication. Oui, ils arrêteraient bien vite cette sorte de présentation, car avec leur manière de faire très spectaculaire pour les yeux, on en vient alors à croire au texte présenté plus qu'au symbole qu'il est censé représenter. Cette manière de faire est donc contraire à l'esprit, qui lui veut nous montrer les choses d'une autre manière, très spirituelle, faite pour aller dans un autre endroit de notre être qui lui a besoin d'être nourri. Car en effet, à l'origine de la chose, il n'était pas question de regarder le poteau ou la perche qui montrait le serpent mort, mais bien de regarder le serpent. le serpent mort sur un poteau est surtout un serpent élevé. Ces quatre couleurs sur un même mot étant les différents stades de compréhension qui arrivent petit à petit chez un croyant, si toutefois il reçoit un enseignement fait pour que cela arrive. L'écriture, la chair, l'esprit, la vie chrétienne normale. Réfléchissez et voyez les choses dans l'éternel. C'est beaucoup plus simple que de réfléchir à la faisabilité de la chose, car ces textes sont faits pour la foi, pas pour la raison humaine. Ces textes sont faits pour l'esprit, pas pour la chair, avec ses limitations bien connues. Oui, la situation était grave dans Nombre 21, et en plus cela se passait dans un désert. Une marche dans un désert aride longeant le territoire de la chair, Édom. Et le tout en vue d'un certain territoire promis, qui était à prendre par la foi. Autre remarque, si Jésus n'avait pas expliqué à l'avance à Nicodème la relation entre le serpent d'airain et lui-même, comment, après la mort et la résurrection de Jésus, Nicodème aurait-il pu évangéliser le peuple juif correctement à ce sujet? Car c'est ce qu'il devint, je le crois, un évangéliste. Les Écritures sont là pour le prouver, ce que nous verrons plus loin d'ailleurs dans ce même document. Oui, Nicodème devint plus tard une sorte de docteur évangéliste, après avoir été auparavant un docteur de la loi. Ce ministère-là est extrêmement puissant et surtout porteur de beaucoup de fruits, car il a le pouvoir d'ôter ce qui gêne premièrement et de remplir là où il y a un manque secondement. Est-ce que Jésus disait à Nicodème que lui aussi était piqué? Piqué, envenimé par quelque chose qui le paralysait et l'étouffait? À vous d'en juger. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout par hasard que Jésus cita précisément ce texte-là à Nicodème. Or, ce texte que présenta Jésus à un homme qui avait besoin de naître de nouveau n'est jamais présenté dans le monde religieux quand on parle du sujet de la nouvelle naissance. On citera peut-être le texte de référence, oui, mais pas de façon à ce que les yeux de ceux qui écoutent s'ouvrent enfin. C'est vraiment étonnant un tel processus mondial. En quelque sorte, Jésus disait à Nicodème qu'en tant que successeur du docteur Moïse, lui aussi était appelé de devenir le porte-parole d'un moyen fantastique de guérison, d'une guérison autre. Là aussi, à vous d'en juger. Peut-être un jour, qui sait. Je m'arrête ici sans quoi le début deviendrait la fin et il faut laisser un peu de place entre deux pour détailler tout l'ensemble de ce qui se passa dans ce temps si spécial de Nombre 21. Donc, si vous le voulez, essayons de nous replacer dans la situation du moment. Jésus est là, devant Nicodème. Ils sont là tous les deux seuls. Devant la gêne évidente de Nicodème, Jésus lui répond bien sûr, mais avec beaucoup de tact, en lui disant à sa manière que pour voir, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, par extension, que pour savoir, comme l'avançait Nicodème, il faut d'abord avoir vu, oui, mais autrement. Le savoir actuel de Nicodème était en effet une sorte de déduction et pas une chose vue, pas une chose reçue personnellement. Nous savons. Or, c'est cet autre savoir personnel qui permet de pouvoir parler efficacement et sans crainte au sujet des choses d'en haut. Lui, il disait « nous savons », donc une sorte de savoir collectif. Même si la réponse de Jésus le mettait sans doute mal à l'aise, la porte était quand même enfin ouverte pour Nicodème. Et c'est lui qui l'avait ouverte, ne l'oublions pas. Il pouvait entrer enfin dans la présence intime de Jésus, continuer cette conversation si importante, tellement importante, chose que nous verrons plus loin. Il se permit même de lui poser une question après que Jésus lui eut évoqué le fait de naître de nouveau et évoqué aussi le royaume de Dieu. Et je profite de cette occasion contenue dans ce passage pour dire qu'un royaume de Dieu ne restera pour quelqu'un qu'un simple royaume s'il n'y voit pas Dieu à l'intérieur et régnant justement sur ce royaume-là. Il faut, là encore, voir avec d'autres yeux pour entrevoir un peu ce qu'est le royaume de ce Dieu, surtout quand celui-ci est personnalisé à la perfection par celui qui en parle le mieux, Jésus. Or, c'est lui qui se découvre lui-même à nous peu à peu. C'est d'ailleurs ce que Paul décrit par un esprit de révélation dans sa connaissance. Cet esprit de révélation vient donc de Dieu lui-même, ainsi que le contenu que cet esprit de révélation est censé nous révéler. Mais reprenons. Jésus parle à nouveau. Nicodème est attentif. Il est à l'écoute, car c'est pour cette seule raison qu'il s'est déplacé de nuit, l'écouter. lui parler et ensuite l'écouter après lui avoir parlé, même si ce qu'il lui a dit est un peu vague. Il est captivé par Jésus, mais il ne sait pas mettre un nom sur ce qui, en lui, le captive. Naître de nouveau, comment cela peut-il se faire? Alors Jésus, plein d'attention envers Nicodème, continue peu à peu à l'amener dans l'Éternel. Il lui dit ceci en effet. Personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est celui qui est maintenant descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jamais, maintenant et. Trois temps employés dans une seule phrase. Il y a vraiment de quoi troubler Nicodème par de telles paroles. Comment est-ce possible? Un certain Fils de l'homme qui monte au ciel, puis qui descend du ciel, et qui se trouvait dans les deux en même temps. Nicodème aurait pu se dire « Je connais un certain passage des Écritures qui pourrait correspondre, mais dans lequel il est parlé uniquement d'anges qui montaient et descendaient sur l'échelle qu'a vu Jacob. Et pourtant ce Jésus, qui est là devant moi, me parle du Fils de l'homme dans le ciel. Quel mystère !» Que pouvait dire Nicodème dans cette dimension d'éternité qu'avait inclus Jésus à travers ses paroles? Rien. Plus de paroles, plus de questions. C'est le néant pour Nicodème. C'est le néant, oui, mais avec, pour une fois, la conviction que ce néant va se remplir grâce à Jésus, car il sait formellement qu'il est un docteur venu de Dieu. Donc, il connaît bien les choses mystérieuses de Dieu. Placé dans un tel état d'esprit, placé si haut, Nicodème est donc tout ouïe en attente de ce prodige. Il sait bien qu'il va se passer un prodige, car il a déjà vu Jésus faire des miracles de tous ordres, aussi bien physique que spirituel. Il l'a vu guérir en effet des aveugles physiques, et ceux-ci guérissaient souvent aussi de leur cécité spirituelle. En tout cas, ils ne restaient plus les mêmes. Donc pour moi, je crois que Nicodème attendait de Jésus une sorte de cet ordre, parce qu'il le connaissait et qu'il était venu le voir. Alors Jésus continua à lui parler. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car, n'oublie pas Nicodème, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vois ce que les Écritures disent, Nicodème. Cependant, les Écritures disaient bien que ceux qui regardaient le serpent élevé conservaient la vie. Que comprendre de cela? Est-ce que des fois Jésus voulait dire qu'avant cet épisode douloureux, le peuple avait d'ores et déjà la vie éternelle? Je parle ici, bien entendu, de ceux qui marchaient de cette manière-là dans un désert, vers un territoire, oui, mais un territoire promis à la fois. Un territoire et une promesse dans lequel se trouvait Jésus. Or, cette fameuse promesse avait été déjà donnée à Abraham, le croyant. Je vous évoque la chose, à vous d'en juger. Si vous connaissez les Écritures et si vous avez la foi, alors vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais dans ce cas, pourquoi l'apôtre Jean a-t-il rajouté le mot « périr » dans son écrit ? Ne périsse point, au lieu de mettre tout simplement, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. N'est-ce pas plus simple? Que veut dire ici plus précisément l'apôtre Jean? Il dit simplement que c'est par la foi que la vie de Jésus passe en l'homme, et que si ce lien se trouve être rompu ou dégradé d'une manière ou d'une autre, alors la vie ne passera plus pour contrer un venin mortel. Il y aura alors une perte de vie progressive, ce qui correspond à périr. Il y a bien d'autres manières de périr, c'est vrai. Mais le texte biblique nous parle bien dans ce cas de figure très précis de périr. Quel est donc l'élément qui peut provoquer cette chose qu'est la perte de la foi et qui amène un être à périr peu à peu? J'espère qu'au fil des documents que vous trouverez sur ce site, cette réponse vous viendra de vous-même, car je n'ai pas à vous l'imposer. Je ne veux pas, moi, ouvrir des yeux. Je peux juste présenter des textes comme l'a fait Jésus pour Nicodème. Ce qui est sûr, c'est que la désapprobation de l'Éternel fut nette et franche dans cette affaire. À vous de voir le contexte général et tout son contexte. Il me semble voir Nicodème. Il n'arrive plus à saisir la situation présente. Il est dépassé. Encore une fois, Jésus évoque à Nicodème le Fils de l'homme, mais cette fois-ci en relation avec le serpent d'airain dans le désert. C'est fort, très fort. Puis, de suite après, il dit encore ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tant aimé, a donné. Il parle donc bien au passé, ce Jésus qui me parle personnellement dans mon aujourd'hui. Il parle comme d'une chose déjà faite. Quel mystère encore une fois pour Nicodème et peut-être pour nous aussi aujourd'hui si nous découvrons ces choses d'un œil autre que d'habitude. Mais je vous propose maintenant de laisser parler Nicodème en nous mettant un peu à sa place. Je fais de cette manière car je ne sais pas faire autrement dans ce cas de figure. Serait-ce la même personne, ce Fils de l'homme et le Fils de Dieu? Serait-ce lui, Jésus? Celui qui est là? Celui qui est devant mes yeux? Je suis troublé, c'est impossible. Mais pourtant il me parle comme si les choses présentes s'étaient déjà passées. Il me parle au temps présent, disant que celui qui croit en ce qui s'est déjà passé a d'ores et déjà la vie éternelle. Il me dit en plus que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et pourtant je ne vois pas que ce Jésus a été donné par Dieu. Je ne comprends pas. Ce Fils unique est-ce lui? Est-ce quelqu'un d'autre? Et le monde dont il parle, qui est-ce? Le Fils de l'homme et le Fils unique sont-ils le même homme? Sont-ils deux en un? Il m'évoque l'épisode de l'affaire des serpents venimeux et du serpent d'airain dans le livre des Nombres, qui disait que quiconque le regardait cloué en haut d'une perche conservait la vie, et ce malgré le fait qu'il fût mordu par un serpent venimeux, comme un contrepoison invisible. Et maintenant ce Jésus me parle d'une autre manière de voir ce serpent. Il me dit qu'après un serpent d'airain fait par la main de Moïse, vint un homme, un fils de l'homme, en lieu et place d'un serpent d'airain placé en haut d'une perche. Il me dit que quiconque croit en lui non seulement ne périt pas, mais plus encore qu'il a dorénavant la vie éternelle. C'est vrai qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi, mais de là à faire le rapport. Pourquoi me dit-il que ceux qui croyaient dans ce temps de Nombre 21 conservaient la vie, alors que les autres qui croient aussi aujourd'hui ont là maintenant et dès aujourd'hui la vie éternelle? Et surtout, pourquoi ajoute-t-il « en lui » quand il évoque le fait de croire? Pourquoi croire en lui en relation avec l'épisode du serpent d'airain? Serait-ce donc les mêmes personnes en une seule, sans le temps, si grand entre les deux? Mais encore ceci, qui est donc ce serpent puisqu'il fait la relation entre un serpent cloué sur un poteau et un homme actuel et bien vivant? Qui donc exactement est celui qui se trouvait sur la perche de Moïse? Qui est celui qui est le Fils de l'homme et fils de Dieu en même temps? Qui est celui qui me parle là dans l'éternel? Est-ce lui, ce Jésus, celui qui se trouve devant moi et qui parle à l'intérieur de moi? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Pourtant, je le vois faire, nous le voyons tous faire un nombre de miracles que seul un envoyé de Dieu peut accomplir. Je vois aussi et surtout qu'il vit une vie autre que la mienne. Qu'il a en lui un principe de vie qui m'attire, alors qu'en moi j'en vois un autre bien différent, tellement différent. Il est une lumière permanente pour tous, et moi je viens le voir dans les ténèbres, au beau milieu de mes propres ténèbres. Il m'est impossible de concevoir que ce Jésus qui est là devant moi est bien le Fils de Dieu donné aux hommes. Humainement, c'est un mythe impossible. Ô secours, éternel mon Dieu, je suis aveugle, je ne saisis pas les paroles de ce Jésus. Et pourtant en moi tout mon être m'atteste que c'est bien lui. Il me parle de naître de nouveau, mais je ne le puis, ni physiquement ni humainement. Pourtant dans ses paroles je sens qu'il s'agit de moi car il me parle de quiconque. Ce quiconque, ce n'importe qui évoque ce Jésus, ce pourrait bien être moi. C'est peut-être moi après tout, puisqu'il me parle, oui à moi personnellement. C'est sans doute moi, c'est moi. Oui je crois bien que je crois mieux. Mais je ne peux pas cependant m'emparer de tout ce que j'entrevois tellement c'est grand. Voilà, dit très maladroitement sans doute ce que je voulais juste évoquer. Ce n'est évidemment qu'une simple image de ce qui, à mon sens, se passa un peu pour Nicodème face à Jésus qu'il vint voir de nuit. Nicodème entrevoyait certaines choses lorsque Jésus lui parlait, mais pour voir réellement, il lui fallait naître de nouveau. Pour se saisir de toutes les paroles de Jésus, et de se les accaparer sans en tordre le sens, il avait besoin d'un support valable sur lequel il pourrait appuyer sa foi. Or, ce support valable, il l'aura un jour devant ses yeux, ses autres yeux. Mais ce sera aussi dans un autre jour. Un jour pourtant rempli de puissantes ténèbres. il pourra alors voir au milieu des ténèbres. Nicodème était un homme de bonne disposition. Il avait la foi, même s'il ne le savait pas. La preuve, c'est que la loi dans laquelle il se trouvait ne le satisfaisait pas. C'est pourquoi il vint à Jésus. Or, personne ne vint à Jésus si ce n'est le Père qui ne l'attire. Par la foi et par l'esprit justement. Le problème, c'est que la foi de Nicodème ne trouvait pas de support valable et suffisant. Nicodème ne connaissait pas Jésus dans les Écritures, vu que celles-ci sont renfermées sous le péché. Épître aux Galates. Nicodème ne voyait donc pas Jésus dans les Écritures, et encore moins sa fonction. Sa religion lui bouchait les yeux. Un voile l'empêchait de bien voir. Or c'est en Christ que ce voile disparaît, et pas par une meilleure pratique de la loi. Et c'est bien normal vu que l'Esprit ne vient que sur Jésus, hors de la loi, celui qui fut donné aux rebelles par rapport à la foi. Oui, l'Esprit ne vient que sur la compréhension spirituelle que nous recevons de Jésus. Or, c'est ce même Esprit qui met de la lumière sur les paroles de Jésus. Tant que cette compréhension ne reste qu'une compréhension humaine, l'Esprit ne peut attester spirituellement de la chose, sans quoi ce même Esprit nous enverrait dans l'erreur. Il fallut donc à Nicodème une rencontre personnelle avec Jésus, pour qu'il voie d'abord et qu'il croie ensuite totalement et comme il faut, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, croire aux paroles de Jésus-Christ. Amis, on ne peut croire convenablement sans avoir vu Jésus par l'Esprit qui le révèle. C'est d'ailleurs ce qui se passa pour Nicodème. Non seulement il ne le vit plus de la même manière, mais en plus il devint son disciple, lui le docteur en loi. Jésus se montra donc à Nicodème dans les Écritures. Il lui fit voir spirituellement le lien entre ce qui était écrit et ce qui était devant ses yeux, c'est-à-dire lui. Jésus fit donc sortir Nicodème de lui-même. Il l'emmena dans l'invisible réel, dans l'éternel. Voyons en outre que c'est dans ce passage précis qu'il est écrit « Dieu a donné » et que de son côté Jésus s'est donné, déjà en se montrant comme tel au travers des Écritures qui parlaient de lui. Mais il s'est aussi donné aux yeux du monde, en vivant une vie en toute sainteté et selon la grande et belle loi de Dieu. Il s'est donné en se montrant comme tel au travers des Écritures qui parlaient de lui. Oui, Jésus s'offre au regard de celui qui voudra bien les diriger vers lui, les quiconques. Bien sûr qu'il s'est donné à la croix Jésus, mais ne se donnait-il pas aussi à la vue de Nicodème par avance, lui le docteur de la loi, qui avait en permanence sur ses yeux le voile de la loi? N'est-ce pas aussi se donner dans ce cas de figure, c'est-à-dire se donner pour redonner la vue à un aveugle? Quand il est écrit que Dieu a donné son Fils, son unique, ne donne-t-il pas aussi avec lui la révélation du Fils de Dieu? Et si quelqu'un ne voit pas le Fils sur la croix, par qui peut-il être sauvé dans ce cas? Peut-être par un pauvre homme frappé injustement, comme on dit. Est-ce que cela peut suffire? Mais, pendant que j'y pense, n'est-il pas prévu pour les Juifs d'avoir des yeux pour voir et cependant ne pas voir? D'avoir des oreilles pour entendre et pourtant être sourd? Mais alors, est-ce que Jésus dépassait ce qui était formellement écrit? Question. Mais quel est donc ce pouvoir qui permet à un homme de demander à Jésus d'y voir, même si les Écritures sont là pour lui prouver le contraire? Quel est ce pouvoir si extraordinaire? En employant les mots « d'eux-mêmes » et aussi « et comme », Jésus faisait effectivement le lien entre l'Ancien Testament et ce que lui-même était là devant Nicodème. Il faisait ainsi le lien entre l'invisible et le visible. Sur l'instant, la chose n'était pas réellement visible. Mais lorsque Jésus sera plus tard cloué sur la croix, pour Nicodème, il n'aura aucune difficulté à croire que Jésus était bien celui qui était présent dans toutes les Écritures. Le texte de Jean 19 au verset 38 à 42 en est la preuve. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus-Christ. C'est par peur des Juifs qu'en secret il alla demander le corps de Jésus à Pilate. Joseph était en quelque sorte l'image de ce que Nicodème était avant d'avoir été converti à Jésus. Mais Nicodème a bien changé, et c'est lui qui maintenant, pour encourager Joseph, vint avec lui 2 jours pour rapporter quelques 100 livres de myrrhe et d'aloès, tout comme la femme qui versa le parfum de ce grand prix pour sa sépulture, et dont il est dit que ce qu'elle a fait sera dit dans le monde entier. Voilà un peu le parcours spirituel de cet homme. Jésus continue donc à parler. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dans ces paroles, Jésus fait comme un appel bien spécial à Nicodème, car en effet le salut ne se limite pas aux Juifs. Et, de même que Nicodème a cru, de même le quiconque du monde qui croit en lui doit aussi avoir la vie éternelle. Et ce, selon la justice de Dieu. La justice qui vient sur la foi, que celle-ci provienne d'un Juif ou d'un non-Juif. Oui, la même justice de Dieu qui imputa à justice cette justification sur Abraham, lui qui avait cru à ce que l'Éternel lui déclarait. Et plus tard, ayant toujours cette foi vivante en lui, il devint le père des croyants, dont nous sommes issus. Est-ce que Dieu a une nationalité? Cette seule pensée n'est-elle pas absurde en elle-même? Jésus a invité donc Nicodème à se sortir du carcan de la religion dans laquelle il se trouvait, afin de devenir le docteur d'Israël, celui dont Dieu voulait se servir pour annoncer le salut, et ce même aux nations. La preuve, puisqu'un peu partout dans le monde, on parle de naître de nouveau, naître de l'esprit. Nous voyons ainsi que les choses de l'esprit se passaient déjà de ce temps-là, puisque ceux qui conservaient leur vie, la conservaient parce qu'ils voyaient le serpent élevé, type du Christ à venir, et ce même au milieu d'une rébellion générale. Par contre, sur le mont Horeb, je ne vois nullement l'esprit agir. Il y a, sur ce mont-là, coupure totale. La preuve, puisque Jésus évoque à Nicodème le fait de naître de nouveau, c'est-à-dire renaître. Or, pour renaître, il est nécessaire qu'il y ait une mort attestée, une mort non physique mais spirituelle, ce que Jésus montre comme étant la vraie mort. L'être vit, mais son être intérieur est mort. C'est ce qui d'ailleurs arriva aux chrétiens de Galatie, quand Paul évoqua le fait qu'il craignait devoir souffrir de nouveau les douleurs de l'enfantement. Or, ils étaient pourtant nés une fois, ces chrétiens de Galatie. Il fallait donc qu'une mort imminente fût connue de Paul pour qu'il leur dise ces choses de cette manière, savoir que quand on est sous la loi, on est mort, bien que vivant. Aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, nous disons généralement que nous avons à notre portée tous les moyens pour recevoir un bon enseignement, et c'est vrai. Mais du temps de Jésus, les Juifs n'étaient certes pas non plus dans l'ignorance puisqu'ils avaient avec eux les écrits de Moïse et ceux des prophètes, qui parlaient déjà de Jésus, mais sans que son nom fût nommé. Et c'est vrai qu'ils ont les oracles de Dieu, les Juifs. Et pour ce qui est d'être aimés, ils sont aimés à cause de leur père. Aimés à cause de la foi des pères dans laquelle la fidélité de Dieu s'exerce et s'exercera à jamais, car lui ne varie pas. Nicodème, étant docteur de la loi juif, les connaissait bien ses oracles. Étant de la race, il connaissait donc toute l'exactitude du texte, comme Saul de Tarse avant de devenir l'apôtre Paul. Cependant, même cette sorte de perfection de la lettre ne permettait pas à Nicodème d'accéder à la compréhension spirituelle, celle qui vient non de la lettre, mais de l'esprit de la lettre. Or, cette compréhension est un fruit de l'esprit qui vient sur la foi de la personne qui croit. Corinthiens 3, verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En somme, la lettre seule tue, mais l'esprit donne la vie à cette loi qui auparavant donnait la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci : car la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, etc. En somme, étant charnel, je n'accède pas au côté spirituel de l'Écriture, tout comme Nicodème. Paul aussi avait toute la connaissance exacte des Écritures, mais hélas, il était dans l'erreur la plus totale et la plus profonde, car il n'avait pas saisi l'esprit de la lettre. Lui non plus n'avait pas vu le Fils dans les Écritures. C'est tout ce qui lui manquait en tant que lien entre les choses à comprendre dans les Écritures inspirées. Mais heureusement, un jour, Jésus le rencontra. et je crois que c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui, peut-être même au moment où vous ne vous y attendez pas, car c'est toujours lui qui vient vers nous et par le moyen qui lui convient. Je reprends pour dire que c'est ici que les paroles de Jésus prennent toute leur place. Le « de même » et le « et comme » sont à relier avec les exemples qui donnent dans Nombre 21. Au verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Nombre 21, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voyons maintenant ce qui s'est passé, ainsi que le détail que j'évoquais au début de ce document et qui permettra de comprendre les choses concernant la foi. Donc, après que le peuple eut parlé contre Dieu, puis contre Moïse, apparurent alors les serpents brûlants. Le peuple demandant donc à Moïse de prier Dieu de les éloigner. Moïse prie alors pour le peuple, comme le peuple le lui avait demandé. En réponse à sa prière, Dieu dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et pas que les serpents s'éloigneront. » Moïse fit donc un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent conservait la vie. Et c'est ici que celui qui avait été piqué par un serpent bien vivant avait le pouvoir de regarder un autre serpent mais mort. Et c'est cela qui faisait que l'homme conservait sa vie, sa propre vie. Mais essayons maintenant de nous mettre dans la situation du moment si vous le voulez. Voyons précisément ce point vraiment très important écrit ci-dessous. Dans toute cette histoire, relatant la rébellion du peuple, puis la venue des serpents brûlants, et ensuite celle du serpent sur la perche, voyez qu'aucun mot ne sortit de la bouche de Moïse. Il est très important de noter ce détail très précis. Il est juste écrit que Moïse pria Dieu pour le peuple. Il s'agissait donc d'une affaire entre Dieu et Moïse, l'homme de foi, en direction du peuple. C'est tout. Fais-toi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Moïse était le serviteur de l'Éternel. C'est donc selon l'image que Moïse, l'homme de foi, allait donner au serpent, que devait venir le secours pour le peuple. Et pas seulement pour ce temps-là, mais pour toujours. Je dis cela car Moïse fit un moule à l'image d'un serpent, puis le remplit d'airain brûlant. Par conséquent, ce qui sortit du moule, ce ne fut pas un serpent, mais une simple représentation d'un serpent brûlant. Or, une représentation, ce n'est pas la réalité de la chose. Et quand on ne voit pas la réalité par rapport à ce qui n'est qu'une image, une représentation, que se passe-t-il ? Il se passe alors qu'on en vient à adorer seulement la représentation, c'est-à-dire ce qui est devant les yeux de chair. En voici la preuve. 2 Rois 18, au verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, Ézéchias, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhuchtan. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas inspiré. On prend tout à la lettre, à la vue des choses. Mais heureusement, Ézéchias était un homme inspiré et il mit en pièces en tant qu'idole l'image de ce qui était le secours de l'Éternel, savoir Jésus sur la croix, presque rien. Oui, on peut en venir à idolâtrer Jésus quand on ne sait pas qui il est exactement, et surtout quand on ne sait pas qui il est vraiment le Fils de Dieu. Or, c'est ce même Fils qui était le sauveur de ceux qui croyaient en lui à cette époque, et l'Éternel approuva cette chose si étrange à nos yeux. Mais alors, s'il en est ainsi, est-ce que cela veut dire que Moïse annonçait par avance l'Évangile, ou en tout cas une partie ? Oui, bien sûr, il ne pouvait en être autrement, car il s'agit de l'Évangile de Dieu, de l'Évangile éternel, Épître aux Romains chapitre 1 et Apocalypse. Si quelqu'un ne voit pas encore dans la loi le Christ à venir, alors c'est qu'il est encore dans la même position que celle de Nicodème. Il lui manque quelque chose. Il lui manque le fait de naître d'en haut pour pouvoir accéder à ces choses supérieures. Dans ce cas, il ne peut emmener les autres plus loin que là où il en est lui-même. Il mélange alors un peu de loi et un peu de grâce pour tenter d'en faire un assemblage homogène, puis il finit dans les déviations doctrinales qui en sont le fruit direct. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a des temps et des dispositions, et il faut les distinguer, les différencier. Mais puisque nous en sommes arrivés à ce point, où trouvez-vous un exercice quelconque de pratique de la loi ou exigence de la loi dans ce passage de nombre 21 ? En vérité, il n'y en a aucun, et pour cause. Dieu ne s'est pas servi d'exercices de lois diverses pour empêcher quelqu'un de périr, mais d'une anticipation de Christ, et ce à l'adresse de la foi. Voyez aussi que ce Jésus dit à Nicodème « Et comme ?» ce qui veut dire que le remède salutaire était à l'œuvre depuis les temps anciens, comme ceux d'aujourd'hui. Or, le remède en question était hors loi, vu que ce remède était sans article de loi respecté à la lettre. La chose est donc toujours actuelle, puisque c'est Jésus lui-même qui a annoncé ces choses, et sous le même régime qu'alors, la foi. Je fais appel ici aux spécialistes des Écritures afin qu'ils vérifient et revérifient la véracité de ce que j'annonce dans ce document, et qui est un appel à la foi. Jésus en effet parle bien de croire, et ce en donnant deux exemples, un dans le livre des Nombres, donc dans le temps de la loi, et l'autre dans son temps, relire Jean 3 à ce sujet. Le lien de vie est donc constitué par Jésus lui-même, la foi en lui de tout temps. Oui, je dis bien de tout temps. Oui, que ce soit du temps de la loi ou du temps de Jésus, le salut fut toujours offert par le moyen de la foi. D'ailleurs, ceux qui périrent dans le désert périrent parce qu'ils n'ont pas eu le même état d'esprit de Caleb et de Josué, hommes de foi. Seuls ces deux hommes, en effet, ne périrent pas. Celui donc qui ne prêche pas ces choses véritables est en grand danger, et met aussi en grand danger ceux et celles qui l'écoutent. Jésus a prévenu. Faisons donc attention à ce qu'il dit à ce sujet tout particulièrement. Je reprends. Moïse connaît Dieu et il a un contact intime et personnel avec Dieu. Dieu parlait avec lui comme un homme parle avec son ami. Moïse n'avait pas peur de Dieu. Il se confiait en lui. Exode 33 au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Mais Moïse connaissait aussi l'adversaire. Il connaissait donc bien le serpent et ce qu'il produit par son venin, une mort lente et sournoise. Alors Moïse se hâte, il fait rapidement un moule et coule le métal dedans. Il sort vite le serpent du moule, le pose sur une perche, et rapidement le place en hauteur, élevé afin que chacun puisse le... Le quoi ? Le prendre ? Non, pour qu'il puisse le voir, et non pas s'agenouiller devant, comme les gens le font devant un crucifix. Oui, le voir. Puis après avoir fait cela, Moïse repart dans sa tente, mais sans dire un seul mot. Voilà, c'est tout. C'est simple, mais c'est tout ce que fait Moïse. Moïse ne dit pas au peuple « Quiconque regardera le serpent conservera la vie ». Non, Moïse ne dit rien, absolument rien. Vérifiez votre texte qui est aussi le mien. Oui, Moïse consulte Dieu. Oui, Moïse fait. Oui, Moïse place. Oui, Moïse fait tout ce qu'il faut. Mais surtout, Moïse se tait. Heureusement, car si Moïse avait dit quoi que ce soit qui aurait été comme un ordre, l'homme aurait encore été capable de mettre en avant son obéissance aux ordres de Dieu pour faire valoir son salut personnel. Ainsi pense l'homme sous loi. Il pense toujours comme ça d'ailleurs. Sa nature, son concept, sa vie sont ainsi. C'est pourquoi il lui est nécessaire de naître de nouveau, naître de l'esprit, être une autre créature avec tout de changé en lui, pas une amélioration. Ce sera donc selon le choix de chacun, quiconque, de regarder en haut vers ce qui est élevé ou non, de croire ou non. Et c'est exactement cela qui fera qu'il conservera la vie ou périra, comme cela est écrit. Le peuple avait vu Moïse fabriquer un moule, puis ensuite couler le métal dedans. Le peuple avait demandé à Moïse de prier l'Éternel pour qu'il éloigne les serpents. Le peuple était donc dans une certaine attente. Que voit-il ? Il voit Moïse, le serviteur de l'Éternel, fabriquer un serpent, puis le fixer sur une perche, puis planter cette même perche dans le sol à la vue de tous, et cela sans dire un seul mot. Après avoir fait cela, Moïse dut sans doute s'éloigner. S'il ne l'avait pas fait, le peuple aurait regardé à Moïse comme d'habitude au lieu du serpent d'airain. Il s'agissait donc d'un moment très particulier entre l'Éternel et les quiconques du peuple qui était là. Aucune main humaine devait en effet s'insérer entre l'Éternel et les quiconques du peuple, sans quoi rien ne se serait produit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien que la nouvelle naissance vient de la foi, et lorsqu'elle naît en quelqu'un, c'est toujours de manière personnelle. Les effets de foule, le monde religieux en est rempli. On compte sur l'effet de foule, sur la loi du nombre, pour favoriser soi-disant la foi. Mais tout ceci est purement humain, technique. Devant cette situation, trois sortes de personnes ont pu se manifester. La première personne est celle qui ne fait aucun cas de ce serpent élevé. Il ne fait pas le rapport entre les choses, accaparé qu'il est par son propre problème d'infection mortelle. Il croit en lui-même, se disant que s'il croit fortement en lui, s'il croit dans la force de sa santé, il s'en sortira. Mais au-delà de ses croyances personnelles basées sur l'homme, cette personne agit ainsi parce qu'elle est encore dans la rébellion, dans une sorte de rébellion interne. Il pense comme cela car il est en rébellion contre Dieu et son serviteur Moïse. La rébellion interne engendre la rancœur, la haine, décuple l'orgueil et la suffisance, et surtout elle rend aveugle. Alors cet homme meurt, juste devant l'objet précieux de son salut, l'objet de grâce qui avait pourtant le pouvoir de le sauver, et qui était devant lui élevé. L'objet de son salut possible était bien venu vers lui, c'est sûr, mais lui ne voulait pas venir à lui en croyant, c'est-à-dire aller vers l'objet du salut en question. Le donné était bien là, oui, mais pas ce qui, dans l'homme, avait la capacité de recevoir le ce qui était donné, c'est-à-dire donné à la foi. La deuxième personne est celle qui a bien regardé ce serpent d'airain, mais à la manière d'un curieux, ne comprenant pas ce qu'était cette chose représentée par laquelle devait venir le secours. Il ne peut absolument pas s'élever de la terre des choses terrestres visibles, car dans sa vie, il ne s'est jamais intéressé à autre chose. Et maintenant qu'il lui est demandé de considérer la situation nouvelle qui lui est présentée, alors, manquant d'habitude, manquant du sens spirituel, il passe lui aussi à côté de l'objet de son salut. Alors il meurt, faute de ne pas avoir vu, faute de n'avoir rien perçu. Il meurt sous loi, sous accusation, alors que l'objet de la grâce s'était déplacé vers lui, mais qu'il ne sut jamais reconnaître comme tel. La troisième sorte de personne est tout autre. C'est l'homme qui, au fond de lui-même, reconnaît qu'il a été rebelle envers l'Éternel et contre Moïse, son serviteur, et ce de manière injuste. Cet homme sait aussi se souvenir des années passées, années pendant lesquelles il a pu voir souvent la main de l'Éternel se déployer en sa faveur à tout moment, bon comme mauvais, mauvais tout spécialement. Il a un cœur plus noble vis-à-vis de l'Éternel et des choses d'en haut en général. Il ne vit pas que des choses de la terre, mais aussi de celles du ciel qu'il affectionne. Il connaît l'Éternel, et quand il voit Moïse élever une chose qui ressemble à ce qu'il a piqué et envenimé, il se dit que connaissant l'Éternel, il s'agit peut-être d'un signe de sa part. Alors, pendant un instant, il détourne les yeux de son propre problème pour regarder ce serpent pendu, cherchant ce que cela peut bien vouloir dire de la part de l'Éternel. Il avait bien vu Moïse, le serviteur de l'Éternel, fabriquer cette sorte de statue de serpent issue d'un moule, suite à la prière du peuple. Donc, partant de ce savoir spirituel qui est le sien, il s'attend à ce que peut représenter ce signe suite à une prière dont il savait qu'elle était entendue d'en haut quand Moïse priait. Pour lui, il fallait que la réponse de Dieu fût de la même veine spirituelle que celle de la prière de Moïse. Il fallait que ce soit quelque chose de spirituel, comme pouvait l'être la prière de Moïse. Il fallait que ce soit quelque chose qui sortît du lieu secret entre l'homme de Dieu et Dieu. Il fallait que ce soit quelque chose d'intime, fait pour être reçu de manière intime et personnelle. Alors, voyant le serpent pendu, cet homme spirituel se dit « Ça y est, l'Éternel répond, l'Éternel me répond. J'ai parlé contre l'Éternel, et lui, maintenant, il me répond, il me parle. Je ne comprends pas bien son langage, mais je vois que sa réponse est en rapport direct avec mon péché, ma rébellion. Mais comme je connais l'Éternel et son serviteur Moïse, je sais que de lui, je peux tout attendre en grâce, car j'ai déjà souvent péché contre lui, et il ne m'a jamais rendu le mal que je faisais, mais qu'au contraire, il m'a fait du bien. Pourquoi agirait-il autrement aujourd'hui, puisque son nom est éternel ? C'est vrai que je ne comprends pas le symbole qui m'est présenté par cette sorte de serpent élevé et pendu, mais par contre je connais l'Éternel. C'est donc avec confiance que j'essaie de voir autrement ce qu'il est en train de me montrer ou de me dire. Seigneur éternel, je ne comprends pas bien, mais j'ai confiance en toi, car je te connais intérieurement. Si tu avais voulu nous faire tous périr, pourquoi nous enverrais-tu un tel message ? pourquoi nous enverrais-tu le message d'un serpent mort mais élevé devant nos yeux? Si tu avais voulu nous faire tous périr, pourquoi ne nous aurais-tu pas donné plutôt une image de toi-même, une image qui sera en mesure de nous montrer que nous avons péché contre toi, et que ta colère serait toujours là? Je ne comprends pas bien, Seigneur, mais je commence à voir. Je vois qu'il ne s'agit pas d'un message de condamnation, mais d'un message d'espérance de ta part en direction de ma foi. Oui, j'y vois mieux maintenant. Ma conviction se confirme. J'y vois de mieux en mieux. Je crois. Je crois en toi maintenant plus qu'en ce serpent. Je crois parce que je vois autrement. Par conséquent, je comprends un peu mieux. Si tu avais voulu me présenter mon acte de condamnation, tu m'aurais certainement exposé un serpent brûlant, bien vivant, venant de ta main, n'est-ce pas? Mais non, tu me présentes au contraire l'image de ce qui m'a piqué mais qui est mort, et de plus mise en spectacle. Donc, Seigneur, tu me dis que ma mort, elle est sur ce serpent? C'est bien ça? Mais comment est-ce possible? Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais il y a juste que je ne comprends pas. Seigneur éternel, je dois te dire quand même qu'avant cette grave affaire, je n'avais jamais eu une communion si réelle, si puissante avec toi, même si cette belle chose se passe aujourd'hui dans un grand moment de détresse, et qu'en plus je ne suis pas très fière de moi. C'est vrai, Seigneur, jamais je n'avais parlé avec toi comme maintenant, parce que je ne m'étais jamais vue comme étant en danger de mort. Jamais je n'avais eu avec toi un contact aussi puissant et vrai. Jamais je n'avais eu avec toi un contact aussi puissant et vrai. Jamais je n'avais eu autant confiance en toi, bien que le venin du serpent soit encore en moi. Mais que m'arrive-t-il? Seigneur éternel, je n'en reviens pas. Pendant que je parlais avec toi et que j'essayais de comprendre ce serpent mort et pendu, et que je me confiais en toi, je ne me rendais pas compte que je ne sentais même plus l'effet de ce venin en moi, et mieux encore, je revis. Je remonte de la fosse mortelle dans laquelle je m'enfonçais peu à peu. Où est donc, éternel, le venin qui était en moi? Où est-il passé? Où est passé mon jugement? Où est passée ma condamnation? Pourquoi as-tu eu pitié de moi pendant ce temps si précieux? N'avais-je pas pourtant péché contre toi? Alors où est passé mon empoisonnement? Pourquoi as-tu donné à mes yeux un symbole qui m'a obligé à me poser des questions, à me demander ce que cela pouvait bien être? Et pourquoi y ai-je vu non une condamnation, mais un symbole de ta grâce, de ton secours, mais cette fois-ci de manière purement personnelle? Seigneur éternel, je m'aperçois peu à peu que non seulement je crois en toi d'une manière vraie, mais en plus maintenant j'ai le sentiment d'y voir. J'ai le sentiment de te voir. Ce n'est donc pas le fait de regarder le serpent qui sauva le peuple, mais c'est l'acte de lever les yeux vers le symbole présenté en direction de la foi qui sauva ceux qui regardaient ainsi. C'est cela, exactement, qui délivra ceux qui crurent, et ce, bien avant la venue de Jésus sur la terre des hommes. Oui, il s'agissait de lever les yeux avec de nouveaux yeux vers ce Dieu, vu d'une autre manière, c'est-à-dire en croyant. Oui, ce Dieu quelque peu étrange qui répondait à sa manière à leur prière, prière qui fut faite par Moïse, l'homme de foi. Ils avaient demandé le secours de l'Éternel, or c'est ce secours même qu'ils recevaient, Jésus-Christ crucifié, portant tous nos maux et nos péchés. Le peuple ne comprit pas forcément ce fameux transfert de culpabilité réel qui se passa à ce moment-là. Ce transfert se faisant par le moyen de la foi en regardant d'une certaine manière le symbole de ce qui avait envenimé l'homme, mais mort, puis placé sur un poteau afin qu'on le voie bien. Quand je pense à Moïse, quand je pense à sa patience, à son amour pour Dieu et pour le peuple, « Fais-toi, lui avait dit l'Éternel. Il y a ici à comprendre quelque chose. C'est selon l'appel qu'un homme a reçu qu'il fera les choses selon lui, et non selon certaines règles. Il fera du mieux qu'il peut pour faire en sorte d'accomplir ce qui lui a été demandé. Ce sera alors son zèle personnel qui se développera dans ses actions. C'est dans la liberté qu'il accomplira cette noble tâche, qui est en rapport avec l'appel de Dieu qu'il aura entendu, et non comme une copie venue d'un certain collectivisme soi-disant béni. Et je trouve que c'est ici une sorte de marque de fabrique divine, issue de la liberté dans laquelle Dieu veut que nous vivions et pratiquions ces choses. Celui qui voudrait refaire une nouvelle perche avec dessus un nouveau serpent d'airain serait bien vite désapprouvé de l'Éternel, et peut-être même qu'il trouverait sur sa route un nouvel Ézéchias pour l'en dissuader, s'il en reste encore un. Faire cette perche et ce qui était dessus, c'est en fait l'image de ce que le serviteur voulait montrer le mieux possible. Rien ne lui avait été dit au sujet des détails de cette perche ou de ce serpent d'airain. Faire cela est une autre façon de présenter l'Évangile. Il y en a qui font des petites perches et d'autres qui font de très grandes perches. Chaque homme envoyé de Dieu a donc à sa manière, à lui, complètement personnelle, de présenter les choses selon l'appel qu'il a reçu et non une copie comme ça se fait couramment aujourd'hui. Et Jésus, comment a-t-il fait ? Vous me direz, mais lui n'était pas concerné puisqu'il était lui-même celui qui était sur la perche faite par la main de Moïse. Je veux bien, mais alors pourquoi a-t-il cité l'affaire du serpent d'airain pour évangéliser Nicodème ? N'est-ce pas de cela dont il s'est servi ? Oui, bien sûr, et il s'est servi de lui-même. Voilà quel a été le zèle de Jésus. Je pense qu'il était nécessaire de noter ce point de liberté si particulier, alors je l'ai fait. Oui, tous ces gens ne comprirent pas totalement ce qui se passait, car il fallait pour cela que Jésus vienne sur la terre des hommes. Cependant, il s'agissait du début d'une foi réelle, pour ne pas dire réaliste, qui se mettait ici en place sans que le peuple le sût forcément. Je veux ici parler d'un certain processus par lequel la foi se saisit des choses promises. Promises, oui, mais en Jésus-Christ. Or, voyez que ce processus était là depuis très longtemps, mais invisible. C'est vraiment étonnant. Il fallait aussi que du temps de la venue de Jésus, il puisse reconnaître en lui l'Éternel, celui qui était auparavant et qui était là de nouveau maintenant. Il fallait que celui qui était proche d'eux dans ce temps reculé devienne aussi leur proche maintenant, qui devienne enfin leur prochain. En tout cas, il fallait que cette dimension d'éternité entrât au moins dans un homme, Nicodème. Et Jésus fit cela envers un homme qui était venu le trouver personnellement. Il fallait que le temps et l'espace, ainsi que les lieux actuels, s'enfuient de devant ses yeux. Oui, qu'il s'enfuit de sa condition humaine pour enfin accéder aux choses éternelles, de l'ordre de celles dans lesquelles la foi aime voyager. Cet espace intemporel dans lequel il n'y a point la barrière des choses visibles, comme la chair par exemple, le moi. Si Dieu avait répondu à la demande du peuple tout entier, ça aurait été une délivrance collective, donc pas bonne en elle-même. Mais par le moyen du serpent sur la perche placée devant les yeux de chacun individuellement, c'était alors un acte individuel et personnel qui se passait, et donc une foi personnelle par une expérience personnelle. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Quiconque. Ce fut bien un groupe qui fut sauvé, c'est certain, mais un groupe composé de gens. Des gens, un par un. Il s'agissait d'un groupe composé de plusieurs personnes particulières. C'est d'ailleurs pareil pour quiconque périt. C'est personnellement que l'on périt, même si on est dans un groupe composé de plusieurs personnes. On ne périt pas plusieurs en même temps, car chacun est une personne unique particulière. Et s'il s'agit de tout un groupe, il s'agit alors de plusieurs personnes particulières qui périssent. Ayons à l'esprit que l'entrée dans le pays de la promesse, le pays promis à Abraham le croyant, n'était pas loin. Or, ce pays, on ne pouvait s'en emparer que par un processus de foi. C'était donc le passage obligé du peuple, car Dieu voulait ressusciter cette foi dans son peuple, mais à chacun en particulier. Amis, on ne peut pas vivre de la foi des autres. Le salut et la marche sont des affaires personnelles. Il n'y a qu'un seul message. On ne peut pas être sauvé par une religion quelconque, aussi bonne qu'elle soit. Ces choses-là ne passent pas en automatique. Non, c'est un par un. Et heureusement qu'il en soit ainsi devant Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul message. Il s'agit d'un message que Dieu envoie aux hommes à l'adresse de leur foi. Dans le cas présenté ici dans Nombre 21, pensez-vous que le peuple qui regardait de telle et telle manière l'image d'un serpent cloué sur un poteau ont forcément leur foi pour croire à ce qu'ils entrevoyaient à travers ce signe? Pouvez-vous croire cela? Pouvez-vous croire qu'ils se forçaient à croire? Non, absolument pas. Ces choses se font le plus naturellement du monde par rapport à une sorte d'acquis intérieur, une certaine connaissance de l'Éternel, comme dans le passage de Nombre 21. C'est un peu comme ces trois genres de personnes que j'évoquais plus haut et qui réagirent différemment les uns les autres devant une même situation. Voici un excellent parallèle. Acte 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Oui, la justice qu'évoquait auparavant ces hommes prenait ainsi la forme d'un dieu par la vue du non-effet d'un poison dans un homme, Paul en l'occurrence. Oui, c'est Dieu qui en effet permit cette situation. C'est lui qui envoya ces serpents brûlants. C'est lui qui demanda à Moïse de faire un seul serpent d'airain plutôt que de détruire les serpents qui piquaient les hommes. L'Éternel en effet se servait de ces serpents pour manifester sa gloire à travers la foi de ces gens qui croyaient en lui. Mais en qui exactement croyait-il? Et plus exactement, voyait-il celui en qui il croyait? Certainement pas. Et pourquoi alors, du temps de Jésus, les gens qui le voyaient faire des miracles ne croyaient toujours pas en lui? L'Éternel aurait pu en effet détruire les serpents qu'il avait envoyés, oui, mais dans ce cas, il en serait sorti une sorte de foi collective, totalement impersonnelle, sans vie autonome dans l'homme. Et si j'évoque une vie de foi autonome dans un homme, c'est non seulement parce que je le crois, mais parce que le même esprit de foi nous dit dans l'Écriture, qui est faite pour la foi, que mon juste vivra par la foi. Ou encore, le juste vivra par la foi, Habacuc 2, 4 et 5. Texte très court, mais qui pour moi est le centre de toute la Bible, le centre de toute la pensée divine. C'est autour d'un message venant de Dieu, et qui est en fait une parole de Christ, que la foi vient, et pas parce que d'autres ont cru. L'effet de groupe, c'est ce que recherchent les religions qui ont pour but de faire des prosélytes. Vous ne me trouverez pas faisant ainsi. Ce peuple avait absolument besoin de détourner les yeux d'eux-mêmes pour les tourner vers un autre. Or, cet autre se trouvait là, sur la croix, représenté à l'époque par la perche. Cette perche était le moyen de montrer quelque chose, une chose que Dieu voulait présenter à la foi. Cette perche portant sur elle-même l'image de ce qui avait piqué le peuple, et non la réalité exacte, peut être donc valablement l'expression de ce qu'un vrai serviteur devrait annoncer quand il parle de la croix de Jésus-Christ et pas uniquement du pauvre Jésus, si souvent prêché à tort. Car ici, voyons que cette image d'un serpent mort n'est rien moins que l'image de ce qui est censé sauver l'homme par le moyen de la foi. Ce serpent, bien que fabriqué par la main de Moïse, l'homme de foi, n'était-il pas venu à cause de la rébellion dans une marche? Oui, bien sûr. Mais ce même serpent, mort et fixé sur une perche aux yeux de tous, ne devenait-il pas, au contraire, le moyen fantastique de salut pour celui qui avait à sa disposition des yeux de foi pour regarder comme il fallait ce spectacle silencieux? Mais pendant que nous y sommes, quand Jésus fut crucifié, est-ce que ceux et celles qui le regardaient avaient été piqués par des serpents? Non, certainement pas. Alors pourquoi Jésus se sert-il de cet exemple de Nombre 21? Ou plus exactement, de quoi le peuple périssait sans vraiment le savoir? C'est Dieu lui-même qui le savait, comme le dit le texte de Jean 3,16. C'est Dieu lui-même qui envoya son propre Fils, car il savait que les hommes périssaient. Je veux dire que la chose ne vint pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Et pour Jésus, ce fut pareil. Mais souvenons-nous, si vous le voulez, du contexte dans lequel ces choses se passèrent du temps de Nombre, pour l'appliquer au temps de Jésus, puisque c'est cette chose-là que Jésus présenta à Nicodème. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu, contre Moïse en ces termes. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Et tout cela était précédé de ceci. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Comme je l'ai dit plus haut, Édom c'est Ésaü. Ésaü le profane, celui qui préfère les choses de la chair aux dépens des choses de l'esprit, comme le droit d'aînesse, qui est une chose spirituelle et non physique. C'est ici le territoire de la chair, territoire dans lequel l'esprit est complètement mis de côté, car justement il est hostile à cette chair, quand celle-ci agit seule sans Dieu. Or, il se trouve que Jésus employa le texte de Nombre 21 pour évoquer à Nicodème les choses de l'esprit. Naître de l'esprit, par exemple, pour comprendre les textes, oui, mais selon l'esprit maintenant. Il lui dit que dans ce cas, on peut être affamé et assoiffé, et même dégoûté, quand on ne sait pas voir celui qui est le rocher frappé, donnant de l'eau, et qui, de plus, les suivait. Ou encore celui qui était la manne dans le désert, dont la traduction de ce mot est « qu'est-ce que c'est ?» Oui, bien sûr que le « qu'est-ce que c'est ?» était effectivement une chose cachée dans ce cas, vu que le Christ était caché dedans, c'est-à-dire dans la manne mais invisible. C'est aussi pourquoi l'apôtre Jean, l'intime de Jésus, quand Jésus lui donna une révélation venant de lui-même, évoqua alors une manne cachée, oui mais une manne révélée aujourd'hui. C'est-à-dire au moment où Jésus parlait à Jean, alors que celui-ci était en prison à cause justement de la parole. Donc quand Jésus dit aux Juifs « Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts », cela veut dire que s'ils l'avaient vu comme tel, c'est-à-dire en tant que Jésus le Fils de Dieu, ils ne seraient jamais morts. Mais il fallait que ces choses arrivent, frères et sœurs en Christ, car comme Dieu a parlé deux fois, il fallait qu'il y ait aussi deux régimes qui sont en rapport avec ces deux fois. Or, ces deux régimes n'étaient pas entre la loi et la foi, mais entre la chair et l'esprit. Par contre, pour ce qui est de l'avenue de la loi, alors c'est carrément la condamnation et la mort qui leur parvint. Mais bon, les choses sont liées entre elles, car s'ils avaient été spirituels, il est certain qu'ils n'auraient pas perdu le sens de la voix de Dieu, celle contenue dans le « maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi », etc. Exode 19. Après avoir fait ce petit voyage dans les Écritures, revenons si vous le voulez à notre petite méditation à propos de Nicodème, et surtout sur la notion de naître de nouveau, ou si vous préférez, naître deux fois sans revenir dans le ventre de sa mère. Pour ce qui concernait le peuple, rien n'a été demandé. Le seul fait de regarder au serpent sur la perche était, sans qu'il s'en rende compte, le premier acte de foi en Dieu pour ne pas périr. Ne périsse pas. Où étaient les œuvres ici? Vous savez ces fameuses œuvres à ajouter? Ou bien cet esprit d'œuvre qui pollue tout mouvement de foi? En vérité, il n'y avait aucune place possible pour de telles œuvres. Dieu avait bien fait les choses. Que faisait comme œuvre celui qui était épargné de la mort? Rien, rien du tout. Ils regardaient et croyaient, c'est tout. Ils croyaient tout spécialement à ce que Moïse leur présentait, oui, mais venant de la part de l'Éternel. En effet, c'était un début de foi, et sans le savoir, il s'agissait de foi en Jésus-Christ. Je dis cela, car sur la perche, il y avait uniquement l'image de ce qui les avait piqués et les faisait mourir. Et pourtant, il est écrit qu'il conservait la vie, alors même qu'il n'aurait pas su en donner l'explication. Or, Jésus parla de ces choses ouvertement à Nicodème, le docteur de la loi. Oui, le docteur de la loi, mais n'oublions pas qu'il était aussi le docteur de Nombre 21, puisqu'étant un docteur de la loi. Je veux dire qu'il était le docteur de ces textes. Alors que comprendre? Jésus aurait-il évoqué ces choses sans parler de lui-même à Nicodème? Alors comment comprendre que plus tard Nicodème se montre ensuite en tant que disciple de Jésus lorsqu'il viendra embaumer avec son argent le corps de Jésus? Un docteur de la loi disciple de Jésus. Je dois rêver sans doute. Mais dans ce cas, est-ce que docteur de Christ ne lui va-t-il pas mieux? Avec la bonne odeur de ses aromates, ne prophétisait-il pas sur la bonne odeur du Christ ressuscité, comme pour la femme qui fit la même chose? Je reprends pour dire que l'Esprit de Christ était donc déjà à l'œuvre dans ce temps-là de Nombre 21. Mais vous conviendrez qu'il y a une grande différence entre conserver la vie et recevoir la vie. Lisez les Écritures à ce sujet et voyez si Jésus a parlé de conserver leur vie à ceux qui croiraient en lui. Jamais vous ne trouverez de tels propos dans les paroles de Jésus. Lui, il dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Point. Il a la vie parce que sa foi le relie à celui qui a la vie. Il a parce que la foi est un lien éternel avec Dieu et que c'est par ce lien, ce fameux conducteur divin invisible, que la vie de Dieu, la vie de Christ passe et coule en permanence. Vérifiez. Ainsi est la foi. Elle croit ce qu'elle voit, mais dans l'invisible de Dieu, sans chercher dans le visible palpable. C'est pourquoi nous ne calculons rien quand nous fonctionnons par la foi, sinon on placerait devant notre foi quelque chose de visible, alors que la foi se lie aux choses invisibles. C'est par ce moyen, pourtant très mal compris, que les gens de ce temps regardèrent. Il ne s'agissait pas de fixer, mais bien de regarder, tout simplement. Et c'était selon l'état d'esprit de chacun que le regard devenait une espérance ou une inquiétude. Oui. La foi repose sur la parole de Dieu. Elle a une confiance totale en elle. La foi croit Dieu sur parole, sa propre parole. La foi ne cherche pas à analyser ce qui lui est présenté, elle s'empare uniquement, car la foi est de Dieu, et par elle nous sommes reliés à lui. Le peuple juif était dans une situation d'urgence comme l'était peut-être Nicodème face à Jésus. Le peuple périssait. Dieu a répondu à l'urgence afin qu'il ne périsse pas. Par quel moyen? En regardant aux souffrances indicibles de Jésus sur la croix? Si quelqu'un en est là, bien que les souffrances de Jésus puissent provoquer une sorte de repentance dans l'homme, et c'est bien normal, jamais il ne sera sauvé de ce qu'il a piqué et par lequel il périt par ce moyen. Pour ce qui est de la repentance, il y a en effet un énorme vide entre l'homme et Dieu, et devant lequel l'homme se sent misérable, vraiment misérable. Car en effet, c'est la grandeur de Dieu placée devant l'homme qui le pousse à la repentance, comme d'ailleurs l'apôtre Paul en parle en Romains 2, au verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est donc la bonté de Dieu par rapport à tout notre contraire que la repentance vient toute seule pure dans ce cas. Cependant, ce n'est pas la repentance seule qui sauve, bien que celle-ci soit importante, car dans ce cas, elle est comme une porte d'entrée. Mais c'est la foi qui, elle, voit avec ses propres yeux l'image de celui qui portait sur lui nos péchés sur la croix, en tant que chose à salut, et non à repentance, qui se lie à celui qui a la vie. Il y a ici un piège énorme pour la chrétienté générale, car cette notion d'obligation de repentance s'adresse plus au sens émotionnel de l'homme qu'à sa foi. En somme, la repentance est comme une image de notre cœur quand celui-ci se trouve face à Dieu. Mais la foi dépasse largement ce cadre pour y voir alors bien plus grand que ce que notre cœur pourtant nous accuse. Elle y voit celui qui paie alors qu'il n'a commis aucun mal, ouvrant ainsi un crédit limité à notre compte, et en même temps mettant à mal la loi et ses effets nocifs qui poussèrent à mettre à mort le juste, le seul juste que la terre n'ait jamais porté. Oui, je parle de cette loi mal comprise parce que la loi est spirituelle avant tout, et que l'homme ne l'est pas forcément spirituel. Romains 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement pour qu'il ne périsse pas que Jésus a paru, mais c'est afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, Dieu a donné, c'est vrai, mais donné momentanément afin qu'il ne périsse pas. Aujourd'hui, par Jésus, Dieu a donné, oui, mais en éternité, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, dans une ambiance d'incrédulité, de rébellion, devant une anticipation de Christ présenté par un symbole, savoir l'image d'un serpent mort en lieu et place de tous les serpents vivants et mordants, la vie de l'homme lui était conservée s'il regardait cette image d'une certaine manière. Cependant, il ne s'agissait que de la vie de l'homme dans ce monde, après quoi il mourait comme tout un chacun. Mais quand la réalité du symbole vint, savoir Jésus le Fils de Dieu, la foi, qui avant se portait sur un seul symbole, se porta alors sur le Fils de Dieu. Alors, en réponse à la foi envers lui, Celui-ci donne alors non une vie temporaire, mais bien une vie éternelle à l'image de ce qu'il est lui-même. Oui, parce que je le répète, la foi est un lien qui ne peut se rompre entre l'homme et celui sur qui ses regards se posent. En parlant ainsi à Nicodème, Jésus lui montrait par exemple du serpent d'airain ce qui allait se passer plus tard sur la croix, c'est-à-dire de la façon dont on le regardera, soit on périra, soit on aura la vie éternelle. Et mon juste vivra par la foi. Habacuc 2, versets 4 et 5. Et c'est ainsi qu'en parlant du serpent d'airain, Jésus se dévoile aujourd'hui à nos yeux réjouis. Il montre que partout dans les Écritures, même dans les endroits qui semblent nous montrer autre chose, c'est toujours lui qui est présent, et qu'il est le même. En parlant ainsi, Jésus nous montre que si nous sommes devenus capables de le voir lui, à la place d'un serpent, alors nous pouvons dire qu'effectivement nous avons reçu de nouveaux yeux, et aussi la vie éternelle qui va avec, à cause de la foi qui est maintenant capable de porter nos regards sur le divin possesseur de la vie éternelle. L'homme, comme vous le savez, est naturellement attiré vers ce qui lui semble beau et digne de recevoir son attention. La vue d'un serpent lui fait donc naturellement détourner les regards. Cependant, quand l'homme reçoit de nouveaux yeux, ses yeux lui permettront alors de voir ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Il y verra, non pas une saleté de serpent, mais il y verra un homme, un fils de Dieu, passant au-dessus des vicissitudes de ce monde, portant sur lui tout ce qui ne lui appartenait pas, et qui provenait du serpent ancien. Oui, c'est selon le regard que l'on portera sur Jésus que toute notre vie se déterminera. Mais pour cela encore, faut-il que les ouvriers le présentent ainsi, c'est-à-dire de manière spirituelle, au lieu de placer des croix de Jésus-Christ à chaque coin de rue sans en donner le sens réel. Oui, aujourd'hui encore, demeurent les trois catégories de personnes qui se trouvaient dans le désert. Il y a ceux qui ne s'occupent pas du tout de ces choses, étant trop occupés aux choses de la terre. Il y a ceux qui regardent, mais avec une mauvaise vision, ou avec un excès de sentimentalisme, et qui par conséquent ne peuvent pas saisir la réalité de l'image présentée par l'esprit. Puis il y a ceux, les quiconques, qui vont au-delà de leur vision parce qu'ils ont expérimenté une nouvelle naissance. Il s'agit plus exactement d'une nouvelle naissance de leur vision. Oui, une nouvelle vision à l'intérieur d'une nouvelle naissance. Mais en réalité, il s'agit de ces deux choses en une. Ce qui est sûr, c'est que celui qui est né ne peut plus demander à naître, car il est né. Et aussi que celui qui a reçu des yeux neufs se servira tout naturellement de ces yeux-là, car ils sont faits pour voir ce qui ne se voit pas. Il aura toujours ses anciens yeux, c'est sûr, mais ils lui serviront alors pour les choses communes de tous les jours de la vie courante. Cependant, l'homme, essentiellement spirituel, ne pourra pas s'empêcher de se rendre compte de certaines choses spirituelles au travers de la vie de tous les jours. Des choses qu'il ne voyait pas auparavant. Il superposera naturellement sa vue spirituelle au-dessus des choses naturelles. C'est ce que vécut Jésus en tant que fils de l'homme et fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle il pouvait parler en parabole, car celle-ci avait deux côtés, deux facettes. Voici maintenant deux textes qui révèlent en Nicodème l'œuvre progressive de l'Esprit de Jésus en son être intérieur. Œuvre rendue visible dans un premier temps par sa nouvelle approche sur la pratique de la loi, et dans un deuxième temps dans la position de disciple accompli, et par voie de conséquence la foi mise en pratique. Cette évolution en Nicodème ayant bien entendu pour origine le dialogue qui s'était passé entre Jésus et lui auparavant. Jean 7, verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria : Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Jésus dit ici très clairement que les Juifs, en tout cas ceux de ce temple-là, ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Où ? Vers eux, bien entendu. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Étonnant Jésus, relié à une horloge autre que celle de la terre. Plusieurs, parmi la foule, crurent en lui, et ils disaient : Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ? C'est à peu près le raisonnement qu'avaient Nicodème et les autres docteurs. Cependant, le texte dit avec une grande précision qu'ils crurent en lui. Je dis cela car à un autre endroit il est écrit que malgré tous les miracles qu'il avait faits, ils ne croyaient pas en lui. Il y a donc croire et croire, et entre les deux se trouve l'esprit. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Évidemment, si les gens en venaient à croire que Jésus était le Christ, avec la pratique toute particulière de la loi qu'il avait, cela commençait à devenir dangereux pour leur régime de vie, surtout pour leur vie religieuse avec leurs traditions. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Au verset 33, Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Par quel moyen? Par sa mort, par sa résurrection, puis par le don d'un corps autre que son Père lui donna, puis son élévation et enfin sa glorification. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Tout à fait normal dans ce cas. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Oui, là il y avait une question qui demeurait, et encore aujourd'hui. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Dommage, car leur réflexion était bonne en elle-même. Mais cependant, l'Esprit n'était pas encore venu, ils ne savaient pas et ne pouvaient pas voir qui était exactement celui qui était devant eux. Mais un, cependant, pouvait le faire. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Mais qu'avait dit Jésus pour que ces huissiers disent une telle chose? C'est écrit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Verset 47. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et que l'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète. » Ils cherchent des preuves se servant de la matière que Jésus est le Christ dans ce qui est matière, terrestre, comme la Galilée, ou quelque chose d'autre de ce genre. Et chacun s'en retourna dans sa maison. On voit bien ici que Nicodème commençait déjà à prendre position pour Jésus auprès des huissiers, des sacrificateurs et des pharisiens, alors qu'il était encore un des leurs. Il se servit de la loi, oui, mais pas en tant que condamnation, au contraire, il s'en servit pour que Jésus ne fût pas condamné, ce qui est le contraire. Pourtant, ils ne se privèrent pas de remettre dans le droit chemin le docteur Nicodème quand ils lui dirent « Examine ». « Examine et tu verras, monsieur le docteur Nicodème, qui prend la défense de ce Jésus. » Nicodème ne se cache plus. Il parle enfin au grand jour et non plus dans les ténèbres de nuit. Pour lui, la loi avait déjà commencé à prendre une couleur différente qu'avant. Une couleur qui n'accuse plus, mais qui ouvre une porte au dialogue exactement du même type que celui que Jésus avait eu avec lui. Il se servit simplement d'un des bons côtés de la loi pour qu'au moins Jésus puisse s'exprimer, oui, s'exprimer comme Jésus l'avait fait pour lui. car en effet Nicodème avait déjà compris que les opposants de Jésus voulaient le condamner directement, bien que le texte dise seulement que c'était pour le saisir. Nicodème y voyait clair maintenant. De la part des religieux, la réponse ne se fit pas attendre, car ils associèrent tout de suite Nicodème à Jésus, puisqu'à la question « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» En somme, ils faisaient en sorte que Jésus se retrouvât isolé, et donc Nicodème aussi. Mais, passant outre, Nicodème prit immédiatement la parole pour leur demander s'il était normal que leur loi condamnât un homme sans l'avoir entendu. On voit bien ici que Nicodème est en train de changer de camp. Parce que devant ce qui se passe, il ne peut faire rien d'autre que de constater l'injustice de la loi écrite, et par conséquent, elle l'est à l'égard de tout homme qui vit sous cette loi. Voyons quand même que plus haut, tous ces gens religieux avaient appelé la foule ses maudits, et cela uniquement parce que cette foule prenait fait et cause pour Jésus. Mais n'est-ce pas ce que Jésus avait dit à ceux qui croiraient en lui ? Oui, bien sûr. Donc en prenant parti pour Jésus, d'une certaine manière, Nicodème s'associait aussi à ceux que les religieux appelaient ses maudits. Il faut du courage pour cela, n'est-ce pas ? Deuxième texte dans Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Bien sûr que ce sabbat-là fut un grand jour, et même un très grand jour. Verset 32. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt y sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et d'ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Prophétiquement, c'est « Ils verront, en bleu, couleur de l'esprit, celui qu'ils ont percé. » Au verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Oui, heureusement que le sépulcre de celui qui ressuscita d'entre les morts nous est encore proche. Dans ce passage, il est parlé de Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus, qui voulait réclamer le corps de Jésus pour l'ensevelir. Joseph a fait de la crainte, de la même crainte que celle qu'avait certainement Nicodème lorsqu'il était allé voir Jésus de nuit. Mais Nicodème avait bien changé depuis sa rencontre avec Jésus, et aussi la conversation qu'il avait eue avec les huissiers, les pharisiens, etc. Oui, Nicodème avait tellement changé que maintenant c'est lui qui allait fortifier Joseph et l'encourager dans sa démarche. Et il l'a fait en apportant de son côté tout le parfum nécessaire à l'embaumement de Jésus. Nicodème ne se cache plus, il se montre au grand jour. Et c'est cela qui arrive quand quelqu'un a vu, quand quelqu'un a des yeux neufs faits pour voir. Il ne se cache plus au beau milieu de son ancienne religion, mais au contraire il parle et il agit. En effet, on ne peut que constater qu'à son tour Nicodème devint un disciple de Jésus, puisqu'on le voit associé à Joseph d'Arimathée, lui aussi disciple de Jésus. Il y a association en Jésus. Maintenant, oui, ayant enfin fait le rapprochement avec ce que Jésus lui avait dit sur Nombre 21, et ce qu'il venait de se passer à la croix en tant que parallèle évident, Nicodème deviendra ce à quoi il était destiné, être non plus le docteur de la loi d'Israël, mais le docteur de la foi qui présenterait la loi. La loi, oui, mais à la manière dont Jésus l'accomplissait par son vécu sur cette terre. Il s'agissait donc de sa loi, qui est celle aussi du Père. Voilà donc ce que devint Nicodème, que l'on raille un petit peu sur les estrades des prédicateurs. Oui, Nicodème le timide, le peureux, le gamin qui pense rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère. Et j'en passe pour ne pas trop charger ces braves gens qui prêchent. Ah oui, j'oubliais, il s'agit de Nicodème qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Donc vivre la vie éternelle, c'est quoi ? Vivre la vie éternelle, c'est vivre avec des yeux neufs, des oreilles neuves et un entendement neuf. Vivre la vie éternelle, c'est avoir une vision autre que celle que nous avons acquise à notre naissance naturelle. Vivre la vie éternelle, c'est vivre dans l'éternel, dans l'éternité, chose impossible pour celui qui a les yeux fixés sur ce qu'il voit uniquement. Vivre la vie éternelle, c'est ôter le temps et l'espace, chose impossible pour celui qui n'arrive pas à se projeter dans l'éternel. Vivre la vie éternelle, c'est vivre par la vie d'un autre. Impossible d'accepter le rachat pour celui qui tient à présenter ses propres bonnes œuvres. Vivre la vie éternelle, c'est d'avoir les yeux détournés de soi-même, impossible pour celui qui est encore dépendant de l'adversaire. Vivre la vie éternelle, c'est vivre dans l'impossible pour un être humain, impossible ne faisant pas partie du domaine et du vocabulaire chrétien. Vivre la vie éternelle, c'est vivre dans l'inconcevable, l'inexplicable, selon l'expression de non-régénéré. Vivre la vie éternelle, c'est vivre par la foi, la vie en Dieu, par un autre, Jésus-Christ, impossible à accepter pour celui qui est attaché aux choses de la terre. Vivre la vie éternelle, c'est d'avoir accepté le transfert de culpabilité, transfert irrecevable pour l'incrédule et le rebelle. Vivre la vie éternelle, c'est d'avoir été délivré de toute loi d'obligation, irrecevable pour celui qui n'a pas vu le serpent cloué à la croix à travers Jésus-Christ. Vivre. Jean P., ainsi que tous les frères et sœurs qui ont tenu à ajouter ce qu'ils avaient reçu en particulier, et tout spécialement dans cette dernière page.